IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir.
Martino.
Richard Martino.
Politiquement incorrect. Incorrect.
Cube Radio.
Hey, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio Politiquement Incorrect. C'est vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va manger puis on va boire comme tout le reste de la semaine, finalement. D'ailleurs, parlant de manger, j'aimerais passer un petit message interne ici. Achille est notre réalisateur qui est de l'autre côté de la console. Arrête d'apporter des pains au chocolat. Achille a apporté des pains au chocolat pour tout le monde, puis c'est très difficile de résister. Quand tu vois ça, là, je me suis dit non, non, j'en mangerai pas, non, j'en mangerai pas. Une minute après, j'avais la bouche pleine. J'en avais un à la gueule. Arrête! Je suis déjà assez gros comme c'est là, mais non, j'ai rien contre les gros! Je suis pas grossophobe! C'est rien que je suis assez gros comme c'est là. J'essaie de contrôler mon poids, mais j'ai rien contre les gros! Non, 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 rien de rien! Absolument pas. Il y a une application, c'est un texte qui était dans le Montreal Gazette hier. Il y a une application à Montréal qui permet de connecter les consommateurs noirs avec les commerçants noirs. C'est-à-dire que si tu es une personne de race noire, une personne racisée, un Afro-Québécois, grâce à cette application-là, ben, tu vas pouvoir avoir accès à tous les commerces, avoir une liste de tous les commerces qui sont propriétés d'Afro-Québécois, et comme ça, tu pourras aller les encourager. Et là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais il y a bien le bottin bleu. On encourage les Québécois à acheter Québécois. C'est la même affaire. Non, c'est pas la même affaire, pantoute. Québécois, ça englobe. C'est inclusif. Tu peux être gay et québécois, hétéro et québécois, femme et québécoise, homme et québécois, noir et québécois, blanc et québécois. C'est territorial. Mais là, commencer à dire « je suis une femme, je vais dépenser dans des commerces qui appartiennent à des femmes, je suis gay », je vais dépenser mon argent dans des commerces qui appartiennent à des gays. Je suis noir. Je vais dépenser mon argent dans des commerces qui appartiennent à des noirs. Vraiment, vraiment. Moi, j'appartiens à une génération où on disait on est toutes pareilles. Il va falloir arrêter de parler de sexe, de parler de race, de parler d'âge et même, oui, de parler de poids. Nous sommes tous égaux devant la loi. On est tous pareils. C'était la génération des citoyens du monde et tout ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, mais on s'est tous réveillés dans un monde où c'est la gauche qui veut enfermer les gens dans des identités hyper, hyper solides, dures, imperméables. Toi, t'es noir. Toi, t'es une femme. Toi, t'es un gay. Et le fait que tu sois noir ou femme ou gay va tout déterminer. Va déterminer la façon dont tu votes, la façon dont tu vis, la façon dont tu penses, la façon dont tu consommes. Voulez-vous rire de moi? On est censé pas ériger des murs, mais les jeter par terre, les murs. Mais là, on a une gauche qui, au lieu d'être progressive, est une gauche régressive. On a des antiracistes racistes. On a des antisexistes sexistes. On a des anti-homophobes qui jugent les gens selon leur orientation sexuelle. C'est complètement débile. Ce craquage-là, ce braquage-là sur l'identité. L'identité d'une personne, c'est extrêmement complexe. Moi, je suis droitier, j'ai 59 ans, je suis hétéro, je suis un homme, j'appartiens à tel groupe socio-économique. Tu sais, mon identité, elle est multiple. Et tu peux pas soudainement dire, ah, c'est un homme, donc voici, ça décline toute ma personnalité parce que je suis un homme. J'ai telle qualité, j'ai tel défaut, j'ai une essence particulière parce que je suis un homme. C'est ridicule. Mais est-ce que la gauche se rend compte à quel point c'est ridicule? Et la façon pour te dire, ça marche-tu ou ça marche pas, ce genre d'application-là? Ça a-tu de l'allure ou pas? Posez-vous la question. Si c'était une application qui permettait aux Blancs de connecter avec des commerçants Blancs, puis dire, moi, je suis Blanc, je vais aller encourager les commerçants Blancs. Est-ce que ça aurait de l'allure? Non. That's it. C'est fini. Ça tient pas de bout. Moi, je suis un homme, puis je vais l'encourager seulement des commerçants hommes. Puis si je rentre dans un commerce, puis je vois que le commerce est une propriété d'une femme, je sors. Parce que moi, j'encourage mon sexe. J'encourage mon genre. Mais c'est complètement débile. Et les gens disent, hey, t'étais à gauche avant, puis t'es rendu à droite, Martineau, droite. Bon, il faudrait savoir c'est quoi, mais c'est parce que la gauche, maintenant, défend des valeurs contre lesquelles elle se battait. On n'arrête pas de parler de vivre ensemble. Vous voyez du vivre ensemble, vous, là-dedans? Je suis noir, je vais l'acheter dans des commerçants noirs, dans des commerçants. Vous voyez du vivre ensemble. Moi, je vois pas du vivre ensemble. Je me souviens, il y avait une politicienne lors d'une élection fédérale. Il y avait une politicienne qui était grecque. Et là, tous les journaux grecs, parce que, bon, il y a des journaux qui s'adressent à différentes communautés à Montréal dans leur langue. Bref, pas de problème. Il y avait les journaux de la communauté grecque et là qui disaient, vous votez pour elle parce qu'on est grec, puis c'est une des nôtres. Ses idées, on s'en fout. On s'en fout totalement. Elle est grecque. Elle est grecque, je suis grec. Ben! Ça, c'est comme tu te promènes en Toyota, puis tu vois quelqu'un qui est en Toyota, puis tu fais un petit put-put. Put-put! Ah! Il y a une Toyota comme moi. Oh! Put-put! On est pareil. Oh! Non, t'es pas pareil. C'est du racisme inversé, c'est du sexisme inversé, et ça me paraît tellement clair. Pour moi, je ne peux pas croire que des gens qui se disent évolués et intelligents ne voient pas à quel point c'est contre-productif et ça va à l'encontre du vivre ensemble. Vivre ensemble. Ensemble. Tout le monde ensemble. Miser sur ce qui nous... Pas sur ce qui nous différencie. Miser sur ce qui nous rassemble. Le fait miser sur nos similitudes, sur ce qui nous rend pareil et pas sur ce qui nous différencie. Moi, je suis un nain, je vais aller dépenser mon argent seulement dans des commerces de nains. Alors, il va y avoir un bottin des commerçants nains de Montréal. Tabouin, vous écoutez Politiquement incorrect.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
Politiquement incorrect.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur.
Méfiez-vous des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'ils sont riches. C'est rien que les gens riches qui disent ça. L'argent fait pas le bonheur. Quand t'es pauvre, tu te dis, attends une minute, là. L'argent fait pas le bonheur, mais le manque d'argent fait le malheur, je veux dire. Nous allons parler d'économie avec Yves Daou, l'excellent directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, il y a des bonnes nouvelles, justement. L'argent fait le bonheur. Il y a de la job.
Bonjour, Richard.
Salut.
Écoute, bon, tu sais, on a parlé récemment là des 10 000 jobs à 50 000. Ben là, moi, je vais te parler ce matin des 120 jobs qui fait plus que 200 000. En fait, l'idée là, c'est qu'à tous les années, le gouvernement dévoile là les salaires, les indemnités, les allocations des ministres, des cadres okay. du gouvernement. Puis nous autres, on suit ça. On aime ça, regarder ça.
Ok.
Puis là, ce qu'on voit aujourd'hui là, t'as 120 cadres nommés par l'État qui gagnent plus que le PM.
C'est incroyable, c'est incompréhensible. Ça. Chaque
donc,
fois.
Toi, notre PM, là, au total, sa rémunération totale, là, globale, c'est 205 000 $. Et là, tu as 120 cadres qui gagnent plus que lui.
Écoute, là, puis ces temps-ci, on peut le dire, le PM, tu penses-tu qu'il travaille en maudit? T'sais?
Écoute, puis quand tu regardes un PM, là, il gère 8 millions de population, il gère un budget de 121 milliards, 500 000 fonctionnaires. Mettons que c'est plutôt mince comme salaire, mais
ben oui.
Ça devrait pas moins que c'est intéressant de voir Puis là, un tiers des 124 qui gagnent plus que le PM, là, c'est tout dans le secteur de la santé. Donc, j'espère que quand ils vont faire des enquêtes sur la situation du bordel là, qu'on a vécu avec la pandémie, qu'il y en a qui ont peut-être pas nécessairement mérité leur salaire.
Ben oui, les hauts gestionnaires, donc, eux autres sont très bien payés dans le milieu de la santé. Combien de gestionnaires qui gagnent plus que le PM?
124 nommés par l'État, dont le tiers provenant du système de santé gagne plus que le patron de l'État, qui est le PM.
Incroyable. On n'accepterait pas ça dans une entreprise, que quelqu'un, un employé ou un gestionnaire dans l'entreprise gagne plus que le propriétaire, le PDG. On dirait que ça n'a pas de bon sens, mais dans le milieu public, dans le monde public, c'est comme ça.
Mais, puis on a quand même aussi, dans cette liste-là, qu'on dévoile tout le temps, il y a évidemment le club des 100 000, les 500 000. Donc, évidemment, le PDG de la Caisse de dépôt, le PDG d'Investissement Québec, toutes des gens à 500 000 et plus, évidemment, Hydro-Québec. Dans le cas de la Société des écoles de tout Québec, ça tourne autour des 400 000. Donc, évidemment, on a quand même notre club des Selects là, qui gagne beaucoup d'argent, mais évidemment, ce qu'on souhaite à ces gens-là, c'est la reddition de comptes, puis suivre ces fonds.
S'ils méritent leur salaire, là, exactement. Et il y en a un qui est mort de rire aussi, c'est l'ancien PDG de la Banque de l'Infrastructure.
Écoute, ça, c'est... Bon, tu sais, hier, Legault disait, tu sais, on paye encore de l'impôt fédéral, là, on devrait surveiller nos affaires. Là. Mais ça, c'est un exemple, tu sais, où tu as une Banque de l'Infrastructure du Canada qui a été créée par Trudeau. Il a dit, moi, là, je vais te gérer ça, là, les infrastructures au Canada, je vais te donner un budget de 35 milliards sur 11 ans, tu vas gérer ça. Il nomme quelqu'un, puis il livre des pinottes pendant deux ans. Puis là, il décide de quitter avant son mandat de 5 ans, puis il part avec une prime de presque 6 dans les 6 chiffres. Ils n'ont pas voulu nous le dévoiler, parce que ce gars-là devait gagner là entre 500 et 600 000 $ de salaire de base, plus une prime de rendement. Puis là, on lui a donné sa prime de rendement, même après avoir quitté pendant 2 ans. C'est ça qui je pense que c'est là l'enjeu, là. C'est ces gens-là qui profitent de l'argent public, mais pour lesquels, tu sais, la reddition de comptes, là, puis la transparence n'est pas là. Ça fait que notre rôle à nous autres, c'est justement d'informer les gens, puis leur dire, ben regardez.
Ben, tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle des parachutes dorés, là. Quand l'avion tombe, ouais. Là, ces gens-là là, sautent en parachute, puis écoute, là, avec des montants de 6 chiffres.
Oui. Puis je veux te parler aussi, ben tu sais, quand on parle de l'argent, là, puis ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être évacué là depuis un bout de temps, là, mais toute la question de la PCU, là. Donc, la PCU s'en vient bientôt à sa fin, là. Tu sais qu'il y a quand même 1 million de Québécois qui l'ont utilisé, là. Mais il y a un sondage qui a été fait par Raymond Chabot qui donne un état de la situation après le PCU, là. Et ce qui est fascinant, les jeunes là, de 35 ans et moins, qui ont probablement utilisé beaucoup parce que c'est eux autres qui ont perdu leur job là, dans le commerce de détail, là, écoute, presque 33% des gens là, qui étaient répondant au sondage n'auront pas d'argent pour payer l'impôt du PCU qui est reçu.
Ah oui. C'est ça, il fallait dire aux jeunes, moi j'ai dit, hein, j'ai deux filles qui ont reçu le PCU, puis je leur ai dit, écoutez, là, mettez de l'argent de côté, là, prenez de l'argent que vous allez recevoir, puis vous prenez une partie, puis vous mettez ça de côté, parce que vous allez devoir payer de l'impôt, oubliez pas.
Puis là, la question, c'est que la question de la PCU, là, quand on va se terminer prochainement, même si les subventions salariales pour les entreprises, pour rappeler leur monde, là, pas sûr que toutes les entreprises vont rappeler nécessairement leur monde, parce que les affaires vont pas partir à vitesse grand V, là.
Ben non.
Donc, si le PCU est terminé, puis les entreprises rappellent pas leurs employés, ben là, il va rester l'assurance chômage qui va être bien moins généreuse. Ben, que le PCU.
Le bon côté, c'est que ces entreprises-là, ben, ils seront plus poignés avec une pénurie de main-d'œuvre, parce que là, soudainement, il va y avoir des. Tu sais, parce que là, on sait que la PCU, il y a des gens qui disent, ben, pourquoi j'irais travailler? Je suis payé par le gouvernement, m'en rester chez moi, me pogner le bang. Là, au moins, sans la PCU, ben, ces gens-là vont avoir un. Tu sais, ils vont vouloir aller travailler, là.
Oui, ben, souhaitons que, tu sais, la reprise fait en sorte que tranquillement avec le déconfinement là, que les gens puissent reprendre leur emploi, que la subvention salariale qui a été prolongée quand même permette encore de payer une partie du salaire jusqu'à temps que les entreprises puissent reprendre leur souffle. Mais il faut quand même se préoccuper que les jeunes de 35 ans et moins là, puis ça, c'est, évidemment, les parents vont être préoccupés aussi, là, qu'ils puissent payer leurs impôts sur l'argent qu'ils ont reçu. Là.
Ben oui, tout à fait. Et écoute, dans la bonne nouvelle, c'est une explosion de ventes de VTT et de motos marines.
Écoute, dans le déconfinement, là, les gens cherchent à aller dans le bois puis sur l'eau.
Là, t'es loin. Là, tu peux respecter la distanciation sociale.
Exactement. Et c'est assez fascinant. Là. Bon, évidemment, c'est une multinationale québécoise là, dont on a une grande usine à Valcourt, là, ici au Québec. Là. Écoute, ils ont vu, là, depuis le début de mai, là, une augmentation de 35 % dans le monde pour l'ensemble de leur gamme de produits à BRP. Bon, BRP, tu sais, c'est des véhicules à la fois les Sidoux, évidemment les véhicules récréatifs à trois roues, à quatre roues, etc. En Amérique du Nord, les ventes là, pendant cette période-là là, ont augmenté de 20 % juste en Amérique du Nord. Puis dans les régions urbaines, ça a augmenté de 25 % Fait que je pense que dans le cas de la pandémie, les gens veulent retourner à au récréatif, tu sais, là, t'as vu comment le camping
ben oui.
C'est beaucoup, beaucoup d'intérêt, là. Donc, bonne nouvelle pour une entreprise du Québec. Les ventes vont bien. Puis, ben, les Québécois vont pouvoir en profiter au cours de l'été sans avoir à sortir du Québec.
Ben oui, bonne nouvelle. Écoute, bon week-end, Yves Daou. Ben, bon week-end. On continue à lire, bien sûr, la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Et je reviens là-dessus, là, le premier ministre qui gagne 205 000 $. Tu sais, les gens qui sont cyniques, là. Oh, ils s'en vont en politique, là, pour s'en mettre plein les poches avec leurs amis riches, puis tout ça, 205 000 piastres avec la responsabilité que t'as. François Legault, ces temps-ci, là, il doit dormir, je sais pas. J'ai parlé l'autre jour à un ministre du gouvernement, le ministre Roberge, pour pas le nommer, le ministre de l'Éducation, et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous dormez ces temps-ci? Voyez-vous vos enfants? Voyez-vous votre famille? Parce qu'il y a tout, tu sais, le retour en classe pour septembre, il y a tout ça à planifier, c'est énorme, c'est gros, il faut qu'ils soient prêts pour septembre, c'est, il dit, ben, très, très peu, je les vois très peu, je travaille comme un fou. J'ai demandé est-ce que vous allez tirer à plug à un moment donné cet été. Il dit bon, peut-être quelques jours. Là. C'est des jobs de fou. C'est des jobs de fou. T'sais. Souvent, on est. Puis oui, j'ai tendance moi aussi des fois à être cynique. Peut-être à alimenter le cynisme aussi, je l'avoue. Puis chialer, puis tout ça, puis on critique. Mais t'sais, voudriez-vous ces jobs-là, surtout dans des situations comme celles qu'on vit présentement? Là, vous allez me dire, ben oui, mais il était indépendant de fortune, François Legault, parce que c'était lui qui avait Air Transat, il l'a vendu à fort prix. Il a pas ben oui, mais il pourrait rester chez eux aussi. Il pourrait rester chez eux, François Legault, puis tu sais, voyager, puis tout ça. Ah oh, oui, mais ces gens-là sont assoiffés de pouvoir, puis tout ça. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que quelqu'un dise, j'ai été privilégié par la société québécoise, ça s'est bien passé, puis j'ai le goût de redonner? Ça se peut-tu, ça? C'est-tu naïf de dire ça? C'est-tu idéaliste? Suis-tu niaiseux de dire ça? 205 000 $, là, c'est rien. Comme je le dis, dans une entreprise privée, la personne la mieux payée, c'est la personne en haut. C'est la femme en haut, c'est le gars en haut, le PDG qui est le mieux payé. Puis après ça, tu sais, ben, y a comme une échelle salariale qui respecte le on va dire, la responsabilité que tu as. Ben, dans le milieu public, c'est pas comme ça. T'as des cadres. Les cadres qui sont payés là, beaucoup plus que François Legault. Un, comme disait Yves Daou, est-ce qu'ils ont fait une bonne job? Ces gens-là, tu sais, le premier ministre, il peut perdre ses prochaines élections, puis il part. Ces gens-là sont là, ils restent là longtemps. Les hauts fonctionnaires, les cadres, les directeurs d'organismes d'État, le directeur de la SAQ, directrice ou directeur de l'Auto-Québec, ces gens-là restent là. Indépendamment des crises, indépendamment des élections, puis tout ça, puis ils sont super bien payés. Est-ce qu'ils ont la même pression qu'un premier ministre ou qu'une première ministre? Je ne crois pas. Puis c'est drôle, ils sont, tu sais, ils sont pas imputables. C'est très rare qu'on leur demande de rendre des comptes. Rédition de compte, c'est important de savoir est-ce que ça a valu ça? Est-ce que la SQ a fait de l'argent cette année? Cette année, certainement, là. Certainement, parce qu'on boit trop au Québec, là, ces temps-ci. Mais est-ce que la SEQ, ça avait lu ça? Est-ce que ton. Tu sais, parce que dans le domaine privé, c'est un peu comme ça, là. Tu sais, on va dire, ouais, le PDG est très bien payé, mais est-ce que ça valait l'argent qu'on a mis? Mais dans le milieu public, non. Donc, 205 000 piastres, je suis étonné à chaque fois en disant quand même, ils font pas énormément d'argent. Puis, tu sais, il serait très mal placé de dire, ben, est-ce que c'est possible d'augmenter notre salaire? Chaque fois que les politiciens, les politiciennes demandent ça, d'avoir une augmentation de salaire, les gens chiolent, ils savent que c'est pas populaire, puis les gens chiolent, ils disent, t'es cœur à augmenter le salaire, puis tout ça. Mais ils sont pas payés très, très cher, là. Simple député, t'es pas payé très cher, ça prend beaucoup de ton temps. Ministre, t'es pas payé très cher. Et premier ministre non plus, mais tu sais. Écoute, t'imagines la levée de bouclier si jamais le premier ministre disait, ben moi, il me semble que je devrais mériter un salaire qui est peut-être plus élevé que ça. Les gens capoteraient, déchiraient leur chemise et colleraient directement au plafond.
Politiquement incorrect.
À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
Salut Jean-François, bon 30e anniversaire de vie professionnelle. Écoute, c'est un privilège d'être avec toi chaque matin. Merci beaucoup.
C'est la même chose pour moi, Richard. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, il faut toujours trouver du plaisir dans son travail.
Oui.
Je pense que quand on a du fun à faire ce qu'on fait, je pense que ça transparaît en ondes. Richard, tu te demandes ce matin pourquoi il faut à tout prix aider le Cirque du Soleil.
Écoute, c'est mal perçu, cette aide-là du gouvernement. On parle d'un prêt de 200 millions US dollars, parce que c'est comme ça que ça se transige au Cirque du Soleil. C'est 276 millions de dollars canadiens. Et il y a des gens dans le milieu culturel qui disent, ben, pourquoi avantager comme ça un joueur de l'industrie culturelle lorsque toute l'industrie culturelle au grand complet ces temps-ci boit la tasse? Comment ça se fait qu'on met autant d'argent pour seulement un joueur? En même temps, il faut se rappeler que les principaux actionnaires du Cirque du Soleil, c'est un gros fonds d'investissement américain basé au Texas, un gros fonds d'investissement chinois. Mais le fonds d'investissement américain, d'ailleurs, je dis basé au Texas, non, il est basé aux îles Caïmans, que c'est un paradis fiscal, donc ces gens-là font de l'évasion fiscale en plus, et ce sont des fonds gonziliardaires. Gonziliardaires. Ces gens-là pourraient...
C'est une nouvelle catégorie, ça.
C'est au-delà là, de milliardaires. Gonziliardaires. Ces gens-là ont les poches extrêmement profondes. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un prêt de 276 millions? C'est quoi le plan d'affaires aussi pour relancer le Cirque du Soleil? Parce que faut se le dire, c'est quand la dernière fois que vous avez été très impressionné par un spectacle du Cirque du Soleil? Moi, les cerceaux, là, les tremplins, là, puis la fille qui descend du plafond là, avec des élastiques, je l'ai vu. T'sais, il y a 20 ans, 30 ans, on était peut-être bien éblouis par ça, mais le cirque ne s'est pas énormément réinventé. Donc, pourquoi? Et en plus, le Cirque du Soleil, qui a foutu à la porte une cinquantaine de ses employés sans leur donner l'indemnité à laquelle ils avaient droit, en disant, ben là, on vit une période de pandémie, vous le savez, c'est très dur, alors qu'ils ont énormément d'argent, les principaux actionnaires, et ils doivent à différents artistes du Cirque du Soleil, on apprend ça ce matin, là, ils doivent aux éclairagistes, aux metteurs en scène, aux chorégraphes, ils doivent quelque chose comme 1 115 000 $ là, en salaire non versé. Fait que, hey, écoute, à un moment donné, là, vraiment, là, le 276 millions, M. Legault dit que c'est une idée brillante, Pascal Bérubé, chef du PQ, il dit, je pense pas que la population appuie le gouvernement là-dessus. Je pense que M. Bérubé a tout à fait raison. Là, on est tanné. C'était mal géré. C'est extrêmement mal géré. 1 milliard de dollars de dette en 5 ans, cette entreprise-là. T'sais, pourquoi on aiderait des gens qui gèrent mal leur entreprise? Et c'est toujours la même affaire. Privatisation des profits, socialisation des pertes. Quand ça va bien, c'est les gens en haut qui se mettent plein les poches. Et quand ça va mal, c'est nous, les contribuables, qui payons. À un moment donné, ça va faire. On l'a fait avec Bombardier, on l'a fait avec plein d'autres entreprises. Pourquoi le cirque? On se pose la question.
Par ailleurs, Richard, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ce petit scandale Maxi qui a retiré là une de ses pubs quelques heures seulement après l'avoir publiée sous cause que ça serait, ça encouragerait ce qu'on appelle la grossophobie.
La grossophobie. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Maxi? Pourquoi ça s'appelle pas Mini? Hein? Je sais pas, il faudrait se poser la question. Alors, Martin Matt, qui était gros parce qu'il riait des gens en confinement qui sont gros, c'est vrai, on a trop mangé, puis on a trop bu en confinement. Puis là, on est tout content de se déconfiner. Sais-tu pourquoi, Jean-François? On va faire des barbecues, on va manger, puis on va boire encore. Écoute, on a tous pris du poids. J'ai pris 20 livres. Et depuis ce temps-là, je porte des loafers depuis 3 mois parce que j'ai de la difficulté à attacher mes lacets, Jean-François. Veux dire, ça ne rit pas d'une personne en particulier. Il dit pas « elle est grosse, puis on va rire d'elle » ou « lui est gros avec un... » Il rit des Québécois en général. On a tous pris du poids. Bon Dieu, c'est une farce, c'est une joke. Et là, je comprends pas comment ça se fait que dès qu'il y a 2-3 indignés quelque part, des petits lapins qui disent nous autres, on est indignés par cette publicité-là. Soudainement, on arrête la pub. Je veux dire, que des petits lapins indignés, c'est une chose, mais que les entreprises devraient, à un moment donné, se tenir debout. Écoute, ce n'est pas, ça ne dit pas que c'est dégueulasse d'être gros, ça ne rend pas les gens qui sont gros responsables de leur état. Et là, c'est rendu, Jean-François, qu'à un moment donné, un médecin ne pourra pas dire à son patient de perdre du poids parce qu'il va avoir une plainte logée à la Commission des droits de la personne. J'ai parlé à des médecins qui disent, je m'excuse, mais l'obésité actuellement, c'est le problème de santé publique numéro un. On dit qu'il y a 600 millions de personnes obèses sur la Terre. L'obésité serait directement responsable de 4 millions de décès. C'est des problèmes, tu sais, t'es bien beau dire, je suis bien dans ma peau, puis je suis beau, c'est correct, mais à un moment donné, il faut se parler aussi, là, c'est un problème, l'obésité et le surpoids. Je suis pas en santé, moi, là. Absolument pas. Le diabète, les problèmes cardiaques, parce qu'à un moment donné, là, en même temps, puis c'est une joke, c'est une farce. On ne peut plus rien dire sans que quelque part, il y a des gens qui sont indignés. Il y a un livre en France qui vient de sortir, un pamphlet qui s'appelle Génération indignée de Caroline Fourest, que vous pouvez trouver dans les librairies qui sont maintenant ouvertes. Je vous conseille de le lire parce que là, il y a une génération de gens qui s'indignent tout le temps et ça, ça m'indigne.
Ouais. Parce que visiblement, Richard, il y a des gens, c'est pas une personne qui a eu cette idée-là, là, c'est des concepteurs publicitaires
ben
qui sont
oui.
réunis. Martin et Matt ont été mêlés à ça. Ils ont dit, bon, OK, on y va de cette façon-là. Ils ont convenu que, ils ont jugé qu'ils voulaient pas insulter les gens.
Ils insultaient pas les gens. Et comme je dis, là, ils n'aimaient pas une personne. Là, ils faisaient pas une caricature d'une personne. On a tous grossi. Il faut en rire collectivement. À un moment donné, on va dire, on va se rappeler dans 10 ans, on va dire, maudit qu'on mangeait à cette époque-là. Ça se peut-tu? C'est ça notre grand plaisir ces temps-ci, manger. Écoute, là, tantôt, là, j'ai rentré dans le bureau, j'avais un pain au chocolat dans la bouche. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là? On peut-tu rire de ça un peu? Là? J'ai de la misère à fermer mon veston. Bref, c'était un
ça
petit gag.
Ça met la pour une grosse fin de semaine.
Oui. Un petit gag qui a pris des grosses proportions. Bon 30e, Jean-François.
Hey, merci. Salut, Richard. Salut. Bonne fin de semaine.
Richard Martineau.
Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Qu'est-ce qui se passe avec les bars? Est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir à un moment donné les bars? On va en parler avec Pierre Thibault. J'ai déjà eu Pierre Thibault ici à l'antenne, puis c'était très le fun de lui parler. Copropriétaire de la Taverne Saint-Sacrement et président fondateur de la nouvelle Association des bars du Québec. Salut Pierre!
Salut Richard, ça
va bien? Oui, très bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais vraiment en furie parce que, bon, on aidait plusieurs commerces, mais là, les bars, on les avait mis de côté en disant quasiment que c'était des lieux de perdition, puis c'est pas vrai qu'on allait donner de l'argent à des endroits qui vendaient de l'alcool et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous avez eu une aide, là?
Ben, petit train va loin. En fait, c'est la première entrevue que j'avais fait au départ, c'est avec toi, donc merci encore. L'idée là-dedans, ben écoute, non, mais à force de présenter des arguments valables, puis de s'entourer de bon monde au niveau d'un bar sur une PME qui est justement devenue la nouvelle Association des bars du Québec, on a réussi à avoir des réponses positives de la part du gouvernement fédéral, donc qui ont accordé le prêt de 40 000 $ comme toutes les autres entreprises. Beaucoup de bars l'ont touché, puis justement, ils ont témoigné, ils nous ont remercié d'avoir pris les devants là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut enterrer cet âge de guerre. Donc, au niveau du fédéral, sur les mesures d'urgence, ça a bien été.
Okay.
Idem pour Investissement Québec, qui a quand même aussi... tu vois, nous, pour la Taverne Saint-Sacrement, ça passait par PME Montréal. On a eu le prêt de 50 000 avec un pourcentage de 3 % sur 36 mois. Bon, c'est un peu technique, mais ça va bien. Il reste que on va faire des téléphones une fois que la crise va être passée parce qu'on apparaît toujours sur les listes d'entreprises inadmissibles. Donc, on est comme un peu entre l'arbre et l'écorce, mais soyons positifs, ça l'avance.
Mais là, bon, le déconfinement, on le sait que dans le milieu de la restauration, on chiale en disant, coudonc, c'est quoi le plan pour nous autres? Même chose avec les bars. Je disais tantôt que les chiffres le démontrent, là, les gens boivent pas mal plus en déconfinement, mais tu sais, bon, c'est une chose de boire chez toi tout seul ou avec ta conjointe, mais tu sais, c'est le fun d'aller dans un bar aussi, socialiser, tu sais. Un bar, c'est plus un endroit socialisé qu'un endroit où tu vas prendre une bière, là, quasiment. Qu'est-ce qui va se passer avec les bars, là?
Je pense que dans le fond, il faudrait une approche en deux volets. T'sais, l'idée des régions, je parlais avec justement un membre, un gars qui est à Rimouski, qui ont eu deux cas. T'sais. C'est sûr que
ben oui.
Je pense que c'est ça. T'sais, l'idée là-dedans, c'est que je pense que là-bas, de tenter le coup d'ouvrir avec la première phase des restaurants, des bars, ça serait une bonne idée. D'un autre côté, sur Montréal, nous, on, en tant que citoyens, on le voit qu'à Montréal, il y a quand même une crise encore. Mmh. Donc, idéalement, je veux dire, ça va prendre beaucoup plus de temps sur Montréal. Puis c'est à partir de là que j'espère qu'on va avoir un canal de communication, parce que honnêtement, sur Montréal, pour ma part, dans le contexte actuel, mis à part les projets de grandes terrasses qui sont bon, projetés là, présentement, qu'on entend parler, mais je veux dire, c'est impossible de tenir de la distanciation sociale dans un bar. Voyons donc, on va arrêter de se compter des menteries.
Ben non.
Bon, je pense à mes amis, Éric Lefrançois, qui a un bar dans Verdun, c'est le bar social, juste te dire comment ça marche. Après, comment tu veux faire de la distanciation sociale, excuse-moi, dans un bar social, on a un gros problème. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Mais il ne faut pas nuire aux régions aussi, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui réagissent à ça par rapport à en région. Voyons donc qu'est-ce qui se passe. C'est des foutaises du gouvernement. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend un volet sur les régions puis un volet
ben
sur
oui, il faut moduler. Il ne faut pas avoir une solution comme mur à mur qu'on applique à tout le monde. Je veux dire, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est pas la même situation qu'ici à Montréal. Là.
Exactement. L'idée là-dedans, c'est de voir, honnêtement, puis sans reproche, le gouvernement travaille fort, on le voit bien. Là, l'idée, c'est que le mot bar brûle les lèvres encore. Tu sais, je veux dire, tu vois jamais cette expression-là. Oui, les bars, on apparaît les derniers. Fait que c'est sûr que c'est frustrant. Puis je comprends les membres maintenant qui sont avec nous, qui sont un peu, si tu veux, en manque de précision d'information par rapport à ce qui s'en vient. Puis ça chauffe un peu. Tu sais, je veux dire, plus que tu es proche de mettre la clé dans la porte, moins que tu es patient, je dirais ça comme ça. L'idée là-dedans, c'est que faut rester quand même patient et travailler dans le sens du monde, mais c'est quand même étrange, pour vrai, je me pose la question, c'est donc bien compliqué d'inclure le mot bar dans le secteur de la restauration, après pourtant avoir tout expliqué, montré tous les modèles d'affaires, des bistrots, des bars à vin, tout ça.
Mais surtout c'est que c'est niaiseux, bien. Parce qu'écoute, il y a bien, tu sais, regarde les Saint-Hubert, là. Saint-Hubert, il y a une section bar qui s'appelle le Saint-Tube, là.
Exact.
Bon, je connais pas grand monde qui dit hey, on va-tu au Saint-Tube à soir boire un petit verre, mais en tout cas, bref, regarde, ouais. Il y a une section bar dans un restaurant, il y a beaucoup de restaurants où il y a une section un peu plus bar, puis d'ailleurs, les mineurs sont pas acceptés dans cette section-là. Mais à un moment donné, là, quand on dit, là, on devrait dire, quand on dit restauration, ça inclut les bars, puis point final.
Je pense aussi, exactement, puis après, c'est à nous, les entrepreneurs qui sont dans le monde du bar, de dire au gouvernement, lui, je pense que ça serait pas une bonne idée, moduler, comme on disait juste avant, moi, je pense que faudrait juste, écoute, sans prétention, ce serait de nous prendre comme on est. On est des entrepreneurs
ben
concentrés
oui.
Sur nos entreprises à l'année. Notre staff nous tient à cœur autant que notre clientèle. Il y a un moment donné où il va falloir aborder cette question-là. Il y a quand même 2000 bars au Québec, on en a déjà parlé. Plus de 800 millions de chiffres de vente, plus d'1,5 milliard de retombées. On existe, là. Donc là, on a des canaux de communication qui ouvrent. On comprend qu'il y a plein de monde qui veulent parler avec tous les ministres, mais là, c'est notre tour. Puis j'espère, honnêtement, qu'on va être capable de faire valoir ce point-là.
Parce
rapidement
que...
sur...
Ouais. Pierre, quand tu dis, là, à Montréal, on voit qu'il y a une crise, puis tout ça, puis on veut pas accélérer trop les choses, c'est tout en ton honneur de dire ça, mais cela dit, quand tu vois que ta business est en train de la perdre, la business que t'as montée, que t'as pris 10 années, mettons, pour monter un bar et tout ça, avoir une clientèle fidèle, et là, soudainement, tu penses à mettre la clé dans la porte, j'imagine que, bon, c'est bien beau penser à l'intérêt public, mais tu penses à ton intérêt aussi, là.
Ben, on pense à nos intérêts, sauf que je te dirais, contre ça, s'il fallait ouvrir puis repartir un foyer pandémique ou quoi que ce soit, ça va être fatal. Tandis que là, on s'accroche, on survit. Je veux dire, on peut pas redécoller tout ça, surtout sur Montréal. C'est comme une traînée de poudre, cette affaire-là. Je veux dire, c'est virulent, puis on le voit encore. Puis, tu sais, même hier, juste un exemple rapide, mais sur Campbellton, un docteur qui est venu au Québec, il est tourné, il y a 150 personnes qui ont été affectées en 48 heures. C'est pas des blagues. Fait que l'idée là-dedans, c'est que On veut des mesures économiques. On veut parler avec M. Fitzgibbon. On veut parler avec les ministères. On veut parler avec la RAGJ qui, encore, on demande le même droit de vente d'alcool pour emporter pour nos amis qui ont des bars à vin. Il y a beaucoup de gens qui travaillent fort sur le mode take-out présentement. Puis il manque juste une petite chose. Fait que d'un côté, je pense qu'on peut survivre encore un peu. D'un autre côté, qui est en région, il faut faire très attention parce qu'eux n'ont pas d'affaires à être hypothéqués sur une crise qui se vit à Montréal. Mais au final, je te dirais honnêtement, notre position, malgré tout, on aimerait mieux s'accrocher encore peut-être 3-4 mois s'il faut. Là, on parle juste de bar. Quand ils vont avoir les terrasses, on est prêt à l'essayer. On veut travailler. Les SDC de Montréal, moi, sur le plateau, ça, ils travaillent fort, ils cherchent des solutions. Mais c'est pas vrai que dans un bar, quand il pleut, les portes fermées, 60 personnes, on va être à 2 mètres.
Ben non.
On va contrôler ça. Au niveau juridique, comment qu'on va traiter les amendes qu'on peut recevoir de la CNSST s'il n'y a même pas de réglementation? Ça va vite, là, tu sais. Fait écoute.
Pourquoi pas un comptoir? Tu sais, il y a des comptoirs café. Il y a des cafés qui ont des comptoirs, puis ils vendent des petits cafés, puis les gens vont là. Pourquoi pas un comptoir shooter? Mais tu pourrais pas? Ce serait illégal?
Ben écoute, ce qui se passe, si on fait un peu genre dans la tendance New Orleans, où ce qui se trame présentement, c'est que les voies vont être piétonnières, terrasses agrandies. Tu sais, sans non plus, je veux dire, si tu me permets l'expression, on veut pas saouler le monde pour dans la rue puis devenir un party 24 sur 24. Par contre, il y a des mesures qui pourraient aider, puis l'ouverture qui se présente présentement, c'est un peu d'enlever un peu de zèle pour permettre à ces entrepreneurs-là, nous autres, les bars, d'accommoder les gens. T'sais, je vois très bien une rue comme l'avenue Mont-Royal,
ben oui.
qui devient plus festive, puis que tout le monde survit. Là, on est en mode survie. Fait que, si t'es un homme d'affaires, faut que tu arrêtes de penser profit, mais faut que tu penses surtout à pas faire de pertes. Si on est break-even, on peut rouler, on va faire notre effort comme tout le monde.
Mais tu sais, à chaque fois qu'on parle de vente d'alcool, on voit tout le temps là, des gens qui sont complètement sous dans la rue, puis tout ça veut dire, attends une minute, là, les habitudes de consommation ont changé aussi. Les gens, là, ils pourraient peut-être là, un bar à vin, puis tu vas essayer un vin, puis un bon vin, puis tu le dégustes, puis tout ça veut dire, c'est pas rien que du monde qui cale de l'alcool, là, puis qui font du binge drinking, là. Voyons.
Je pense pas non plus, mais je me rappelle à l'époque quand on parlait du cannabis dans la société, puis légaliser tout ça, ils montraient toujours 4-5 jeunes d'un parc qui prenaient un joint de 8 grammes. Tu sais. L'idée, c'est qu'on a passé au travers. Regarde, écoute, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais j'ai l'idée qu'on va s'adapter à tout ça. Puis la clientèle est disciplinée. Tout le monde veut s'en sortir présentement. Fait que si, par exemple, t'as 4 clients qui débordent puis qui sont genre qui manquent de discipline, ça sera à nous d'intervenir, mais permettez-nous de l'essayer, faire confiance au monde.
Ben oui, un comptoir avec des vins ouverts, puis tu sais, on est en 2000, c'est quand même bizarre là, parce que là tu peux te promener sur la rue là, comme tu dis là, avec un pétard là, mon gars là. Puis d'ailleurs, on dit que c'est un service essentiel de vendre du pot là. Fait que là c'est bizarre, hein, c'était illégal il y a très peu de temps, puis là c'est rendu un service essentiel en très peu de temps. Mais tu peux te promener avec un Christy de pétard que même Bob Marley n'aurait pas fumé, là. Puis ça, il n'y a aucun problème, mais tu peux pas prendre un verre de vin dans un comptoir. Ça, c'est malsain. Puis c'est immoral, tu sais.
Puis étrangement, tu sais, quand tu as eu la chance de voyager un petit peu, tu sais, la première fois que tu vas débarquer en Europe, tu vas te vendre avec une bière, tu checkes la police, tu penses qu'ils vont se faire arrêter.
Mais oui.
Ça nous appartient à nous, en tant que société, cette espèce de restriction-là. Je sais pas si ça vient du Canada ou du Québec, qui est étonnant, là, je veux dire. L'idée de dire, c'est qu'il faut quand même enlever l'espèce. Ça revient à la même affaire que quand on parle du mot bar. Il faut enlever le côté noir du « Hey, un bar, c'est des bombes. » C'est pas ça qu'on veut. Puis si y a des dégustations de vin dans la rue, j'ai un de mes amis sur le plateau, Alain Rochard, qui a le rouge-gorge, il est tellement prêt à faire goûter du nouveau stock.
Ben
il
lit
des caisses de vin. Il travaille pour survivre, puis sauver la business. Puis d'un autre côté, on se fait dire, t'sais, c'est sûr qu'il faut être logique. Ça va prendre, je te donne un exemple rapidement. T'sais, mettons, ça va prendre du personnel supplémentaire pour donner des consignes, tout ça. Fait qu'il va y avoir des hôtesses qui vont s'ajouter dans le staff. Mais si on en met un par terrasse qui fait une certaine surveillance, mais tu sais, amicale, elle va être capable de communiquer avec les patrons du bar ou le gérant du bar.
Ben des oui.
Tables-là, sérieux, sont plus proches.
Hey, tu parlais de voyage, là. En Allemagne, là, il y a des distributrices de bière dans le métro. Les distributrices de bière dans le métro, et je pense que tu peux prendre le métro avec une canette de bière en Allemagne. Tu sais, c'est autre chose, puis ils sont pas tout le temps sous 24 heures sur 24. Là, mais
au contraire, ils sont reconnus. On s'entend que pour vrai, au niveau des Allemands, ils ont quand même une force d'ingénierie. Tout ça, l'idée, c'est faut faire confiance aux gens, faut sortir de. Tu sais, tu disais tellement bien au départ, le catholicisme. Au début, les bars, on les aidera pas, puis on était avec les pans de choc, puis tout ça. on est rendu ailleurs. Fait que, écoute, moi, je reste positif, mais il y a deux choses. C'est les deux volets qu'il faut. C'est sur l'ensemble du Québec, puis vivre comment on va vivre ça à Montréal. Travailler avec les villes. Les villes travaillent très fort derrière nous autres, pour vrai, dans le sens où ils veulent mettre des pratiques en place pour nous aider. C'est clair, il y a encore des discussions, le stationnement, la circulation. C'est vraiment un gros, gros
casse-tête. Oui, oui.
Mais je pense que, tu sais, on peut encore s'accrocher, puis on est mieux de faire attention à court terme, puis de pas se faire ramasser dans le détour dans 6 mois.
Et quand on parle du milieu de la restauration, ça devrait inclure les bars. C'est pas vrai que c'est ta part. C'est qu'on peut... Écoute, on est derrière toi, Pierre. On se tiendra au courant de ce qui se passe là-dedans. Mais moi, je vois parfaitement ça, des comptoirs sur la rue Saint-Denis, sur la rue Saint-Laurent, sur Mont-Royal, où on peut prendre un petit verre de temps en temps. Voyons, on n'est pas des sauvages. Là. On ne sera pas tous à quatre pattes en train de vomir. Là. Merci Pierre Thibault.
Merci. Salut. Jean, bonne journée. Bye.
Salut.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
C'est le temps de parler à Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, avant de parler des sujets que tu m'as envoyés, je veux absolument t'entendre sur George Floyd, son assassinat littéralement. Écoute, ça me fait penser à l'époque des lynchages, quand on pendait les Noirs aux branches des arbres. Hallucinant.
Oui, c'est absolument troublant. Puis je fais partie de ceux qui sont incapables de regarder cette vidéo-là. Ouais. Je suis pas capable. Et il y a là quelque chose qui est très révélateur d'une vague, d'une espèce de, je dirais même plus, c'est une vague sourde, lourde, profonde à la société américaine, puis ça ne se règle pas. Et là maintenant, c'est sûr que le nom du policier qui avait le genou sur le là maintenant on le connaît, on sait son nom, puis de plus en plus des gens dans les médias même ont partagé le dossier devant la commission des policiers, c'est l'espèce de déontologie policière là-bas de la ville de Minneapolis et d'autres services où il a participé. Écoute, ça donne des frissons dans
c'est
le dos.
Fou.
Tiré dans le dos d'un adolescent latino de 17 ans, des trucs comme ça. Tu lis ça, là, tu te dis, comment en est-on arrivé à ce que des gens comme ça puissent avoir une arme et faire office d'officier de justice, d'officier de police? C'est absolument hallucinant. Et y a là maintenant, là, on va voir ce qui va se passer, mais on le remarque encore une fois, puis je veux le souligner, dans la scène sportive américaine, il y a une politisation qui est grandissante, on le savait déjà, ça commence avec des voix comme celle de LeBron James, comme Colin Kaepernick, mais il y en a d'autres, et je trouve ça absolument sidérant de voir à quel point ça ne change pas plus rapidement.
Exactement.
Ça.
La question raciale est toujours là. Elle n'est toujours pas réglée. Il y a un dysfonctionnement profond à l'intérieur de la société américaine.
Puis, j'ai partagé un seul truc sur George Floyd. Je suis allé sur le site d'un joueur de la NBA, son site Instagram, Steven Jackson. Puis, il a joué 14 ans dans la NBA. Puis, il connaissait, c'est un ami de George Floyd. Puis, il a partagé une seule photo de son ami George Floyd. C'est ce monsieur-là, habillé de son habit de footballeur. C'était un ailier rapproché, un tight end, comme on dit en anglais. Puis, il avait été jusqu'au championnat d'État quand il avait joué dans les rangs des écoles secondaires. C'était quand même un athlète en son temps, puis tout ça. Puis je trouvais, moi, je veux pas voir la face du policier. En fait, c'est ce que je veux, c'est qu'on se souvienne que ce monsieur-là n'avait absolument rien d'une personne qui était dangereuse, sinon que par la couleur de sa peau.
Écoute, 4 minutes, là, le genou sur la jugulaire, à 15 reprises, il a dit je ne peux pas respirer. Vraiment, là, ça me faisait penser à la toune que je chantais. Voyons, c'est qui, la chanteuse de jazz aux États-Unis qui est Billie Holiday, Strange Fruit, où elle parlait des Noirs qui étaient pendus aux branches des arbres dans les années 20. Ça nous ramène quasiment, c'est vraiment dégueulasse. Et je peux te comprendre de ne pas pouvoir regarder ce vidéo-là, c'est révoltant. Écoute, tu veux parler de liberté d'expression aussi.
Oui, c'est important parce que on voit ça, ça revient tout le temps. Dans tout ça là, oui, il y a l'espèce d'annonce, la pub de Maxi, puis la réaction aussi de Martin Matt que j'ai trouvé qui était une réaction. En même temps, tu sais, ça en dit beaucoup. Il y en a beaucoup là-dedans. On sent qu'il y a une certaine retenue, mais on est capable de lire quand même.
Oui.
J'ai trouvé ça très intéressant. Mais le texte de Mathieu Bock-Côté aussi par rapport à ce qui se passe à l'université, encore une fois. Puis, c'est tout ce que j'ai fait en préparation de ça. Je me suis dit, je vais retourner moi dans mon parcours universitaire post-bac, si tu veux, pour la maîtrise et même pour la scolarité de doctorat. J'ai beaucoup étudié la contre-culture québécoise parce que c'était quelque chose qui me passionnait vraiment là, beaucoup, beaucoup. Puis je suis retourné dans un bouquin de 1968 de Denis Vanier qui s'appelle « Pornographique délicatessen ». Denis Vanier qui a été en 2001, c'était posthume parce qu'il est décédé en 2000, qui a été primé par la ville de Montréal, un poète que, enfin, on a reconnu son œuvre. C'est un poète majeur là, dans notre poésie québécoise. Là. Vraiment, c'est un de nos titans. Moi, je veux le dire, c'est le poète contre-culturel qu'on a eu. Et dans ses dialogues avec Patrick Straram, je veux dire, il dit quelque chose sur l'écriture. Je sais même pas si on publierait ça aujourd'hui. et c'est dans des lettres qu'il échange avec Patrick Straram, le Bison Ravi, une autre figure de la contre-culture de Montréal des années 60. Il dit, l'écriture, à force de bâtir des églises où pourrissent dans la pénombre les artères éclatées des statues de l'ordre, est un piédestal au déchu, mais en sursaut d'opium, ciment encore aigle, pour lesquels la malédiction est signature de coups de fouet. Puis, ça continue comme ça. Il y avait un tel langage violent quand il s'exprimait à propos de l'ordre, mais à propos de beaucoup de choses, à propos de la sexualité. On se souviendra que Denis Vanier s'était révélé au grand public et surtout à la scène, si on veut, le poétique montréalaise, quand il s'était présenté à la Nuit de la poésie de 1970. On le voit dans le film de Claude Labrecque. Il détonne par rapport aux gens qui avaient les pattes d'éléphant et tout ça, puis qui avaient un discours hippie. Lui, il s'est présenté sur scène avec son afro, puis il a lu un texte d'une violence inouïe qui s'appelle Allopolis. On pourrait plus publier ça aujourd'hui.
Mais exactement. Et moi, moi je suis très inquiet, Steve. Quand je vois là, que les gens sont prêts à donner des pouvoirs à l'État de surveiller nos allées et venues avec des logiciels dans notre cellulaire, quand on est prêt à donner du pouvoir à différents groupes de pression qui vont nous dire quoi écrire, quoi penser, etc., on est en train... Les libertés qui ont été durement acquises grâce à des luttes, on est en train de vendre ça à rabais, nos libertés. Vraiment.
Tout à fait. Elle n'est pas loin l'époque où, à un moment donné, on va commencer à faire une revue de la littératie au Québec, probablement, où on va se dire, il y a des œuvres qu'on va peut-être même vouloir mettre à l'index. Pourquoi on ne pourrait pas envisager ça Moi, quand je vois ça en ce moment, il y a un tel délire, là, quand je vois ce qui se passe, par exemple, dans certaines universités où on dit, par exemple, ce type de conférence-là, non, on ne veut pas dans des librairies, tu sais, je veux dire, non, on ne veut pas que cette personne-là s'adresse au public en fonction de paramètres idéologiques, et tout à coup, on va encadrer la liberté d'expression en fonction d'une idéologie X. Je veux dire, on le voit déjà ça dans le débat sur la laïcité au Québec depuis 15 ans. Pour certaines personnes, le seul fait de ne pas adhérer à l'idéal antiraciste ou le seul fait d'être pour la laïcité puis d'en défendre les contours, ça fait de ces gens-là qui deviennent des infréquentables puis même des gens qu'on voudrait mettre à l'index, fermer la liberté d'expression, empêcher la liberté d'expression. Ça m'arrive encore au cours des 24 dernières heures. Je reçois encore des messages de gens qui me disent c'est ça, Fortin, on sait bien.
Ben oui. T'as pas le droit de dire ça. Il y a un film de Francis Weber avec Pierre Richard qui s'appelle Le Jouet. OK, écoute-moi bien. Il y a un propriétaire, un patron d'une entreprise qui fait venir son employé et qui lui dit déshabillez-vous. Et là, l'employé dit pardon, il dit déshabillez-vous. Et là, le gars commence à se déshabiller. Et là, le patron l'arrête en lui disant je vous ai demandé de vous déshabiller et vous acceptez. C'est qui le monstre? Est-ce que c'est moi ou c'est vous? Je te dis ça parce que c'est une chose que des gens demandent qui sont fâchés contre la pub de Maxi. mais Maxi n'a que se tenir debout. À un moment donné, ces entreprises-là aussi, là, ils n'ont pas à plier les genoux dès qu'il y a des plaintes contre eux autres. Il va falloir eux autres qui se tiennent debout aussi en disant non, on la trouve correcte, on y a pensé à cette publicité-là, on ne vise personne, on ne dit pas que les gros sont dégueulasses, on rit du confinement, que tout le monde a pris du poids pendant le confinement. Ben non, il s'agit que quelqu'un, un petit groupe, fasse une plainte, que ces entreprises-là reculent, comme ils ont fait au Festival de jazz avec Canada. À un moment donné...
Exactement. Peut-être que ces gens-là, à un moment donné, apprennent. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient « Non, Robert Lepage, Slave, tenez-vous debout, continuez. » Puis j'avais vu le premier show, moi, avant que ça soit monté, quand c'était, j'ai un blanc de mémoire, la chanteuse, en tout cas. Oui. Mais tu sais, et puis ces chants d'esclaves-là, j'avais trouvé ça absolument merveilleux, magnifique. Je me disais, mais non, mais là, qu'est-ce qui arrive? Oh, là, on voit les groupes de pression, les manifestations devant, les campagnes sur les réseaux sociaux, les espèces de dessins, là, complètement, les dessins d'abeilles agressives sur les réseaux sociaux qui viennent et qui montent, là, en épingle. Je veux dire, à un moment donné, si tu te mets dans la peau des gens qui mènent une entreprise, puis tu te dis, c'est quoi les avantages puis les inconvénients. Si on décidait, par exemple, de OK, non, on la retire pas, on y va, puis, tu sais, ben, peut-être qu'il aurait demandé à Martin Matt, là, maintenant, tu vas aller sur la place publique, tu vas défendre
ben cette oui.
là. Lui, il pense à sa carrière aussi. Je le sais pas, là, mais ça va jusqu'où? Est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer là-dedans? Ben, je le sais pas. Mais
moi, je trouve ça bien inquiétant. Betty Bonifaci, qui s'appelle.
Betty Bonifaci. Quel spectacle ben, elle a donné, puis j'ai tellement aimé son show quand elle le faisait en solo, là, si on veut.
Non, mais si. Cette fille-là, là, était très peu payée. Elle a consacré des années de sa vie à déterrer des champs d'esclaves qui avaient été oubliés pour rendre hommage à ces gens-là. Et on la traite de raciste. Voyons.
Ah, écoute, des fois, là, je me
tu sais que sa carrière est presque finie, cette fille-là. Elle a parlé à un de mes amis, là, puis elle dit qu'elle a plus de contrat nulle part, là. Vraiment, elle est mise de côté totalement du milieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rendre hommage aux esclaves. Elle a plus de job.
Ben c'est ça, c'est ce que je dis, c'est la mise à l'index. Moi aussi, j'en connais d'autres personnes comme ça qui, à un moment donné, à force de se coltailler, puis de ben tu deviens comme un peu un infréquentable.
Ben oui.
Puis c'est un peu plate parce que, je veux dire, à un moment donné, cette espèce de liberté d'expression-là qu'on est supposé chérir et défendre, ben on l'a vu. De toute façon, après Charlie Hebdo, il y a beaucoup de gens, moi, que je leur fais noter des fois, « Hey, tu signais à l'époque Je suis Charlie, puis t'étais sur Twitter, puis hashtag Je suis Charlie, je regarde ce que t'écris aujourd'hui, puis je me demande, non, mais finalement, sais-tu, je suis plus Charlie pantoute, puis j'aurais pas dû signer ça, puis on peut pas tout dire. » Ben je veux bien croire, là, mais en ce moment, moi, quand je regarde la façon dont on cadenasse un peu la liberté d'expression au Québec en fonction d'intérêts très, très ténus, là, puis des fois, là, très, très militants, ben je me dis, comme toi, que il devrait y avoir des gens avec un peu plus de colonne
tout
pour
à fait, de colonne
à tous les assauts.
J'en profite en terminant, je te lève mon chapeau, Steve, parce que toi, tu te tiens debout contre ton camp. Je le redis, tu es un gars de gauche, tu es fièrement de gauche, et tu dénonces les excès d'une certaine gauche, tu te mets des gens de ton propre clan à dos, tu te fais brasser en maudit ces médias sociaux, tu dois pas trouver ça drôle, tu pourrais prendre ton trou en disant non, ok, j'arrête là, tu continues, tu te tiens debout. Bravo.
Ben, c'est drôle, hein? Moi, je te dirais ceci en terminant. Encore ce matin, je partageais avec quelqu'un avec qui je débat, Ismaël Sec, là, on le connaît, là, avec il s'était coltaillé avec Benoît Dutrisac, puis on parle de laïcité, puis moi, je lui dis, moi, là, ma vision de la laïcité, c'est celle de Solzanetti, puis je lui partage un texte de Solzanetti de 2013, où il dit que, justement, la laïcité, ça devrait surtout être à l'école. On me répond, oui, mais il a évolué.
Il a évolué.
Ça sera évolué, puis pour d'autres, ça sera une régression. Le peuple québécois, à un moment donné, va trancher.
Exactement. Merci beaucoup d'être là, Steve. Passe un excellent week-end, Steve Fortin.
Salut bien.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect.
Cube Radio.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Oh yes,
C'est le facteur Vincent Dessureau. Salut Vincent.
Salut Richard. Ça va bien?
Très bien. Écoute, ma blonde ce matin, Sophie, me fait remarquer quelque chose de très important. La première page du journal de Montréal, aucune nouvelle sur la COVID.
Oui.
C'est la première fois en 3 mois, il n'y a rien sur la COVID de toutes les histoires.
D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai ajouté depuis aujourd'hui une section hors COVID au bulletin de nouvelles. Parce que les nouvelles, quand même des grosses nouvelles aujourd'hui, ici et dans le monde. Donc, on y arrive dans quelques instants.
Même l'actualité se déconfine.
Oui, puis ça, on n'est pas déçu de ça nécessairement, ça veut pas dire que les nouvelles hors COVID sont heureuses, mais bon, ça fait changement quand même.
Le premier ministre qui visite une des régions chaudes du Québec aujourd'hui.
Oui, sachez que vous avez congé de point de presse à 13h aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas du gouvernement du Québec, mais M. Legault n'est pas en congé pour autant. Il est du côté de Lanaudière aujourd'hui, donc 4e région la plus touchée après Montréal, Laval, la Montérégie. C'est 3900 cas là-bas, 179 décès. Alors, il va quand même y avoir un point de presse, mais ce sera à 15h aux côtés de Danielle McCann, la ministre de la Santé, pour donner certaines spécificités de la région de Lanaudière. Alors, pour les gens dans ce secteur-là, sachez-le, le gouvernement du Québec, aujourd'hui, les efforts seront centrés dans votre région.
Le nombre de cas dans le monde, ça prend 6 millions.
Oui, là, il faut dire que ça baisse pas là, au niveau mondial l'augmentation des cas, parce que quand il y a un pays qui ralentit, un autre reprend de la vigueur, et c'était, là c'est vraiment le Brésil hier, c'était 24 000 nouveaux cas, le taux là, et l'augmentation des cas par jour est vraiment en flèche, alors sur le point de dépasser les États-Unis par jour, donc ce sera à surveiller. On est à 362 000 morts présentement. Par contre, dans le monde, ce qu'il y a à noter, entre autres, on surveille toujours la Corée du Sud, où on parle d'une augmentation de cas qui est encore loin de ce qu'on a chez nous, mais quand même, on limite le retour à l'école aujourd'hui, entre autres à Séoul, en raison de ces nouvelles éclosions. Et on avait des chiffres économiques aujourd'hui pour l'Europe. L'Italie et France, c'est ce qu'on se rend compte pour le premier trimestre. La France, le PIB a chuté un peu moins que prévu, alors c'était des meilleures nouvelles, alors que l'Italie a chuté plus que prévu, alors c'était des moins bonnes nouvelles. Mais dans la réouverture, aujourd'hui à Paris, les prestigieuses ou très connues Galeries Lafayette qui ouvrent.
Les parcs vont ouvrir
les
aussi
parcs
bientôt.
Les également qui étaient... surprenamment quand même, en Paris encore fermé, mais qui rouvre alors plusieurs...
Ils vont pouvoir se promener au parc Montsouris, au parc des Buttes-Chaumont, au Jardin du Luxembourg.
C'est lequel ton parc préféré?
Montsouris.
Le Montsouris,
le,
ça
le parc Montsouris qui est magnifique, super beau.
Tu trouves toujours les plus beaux parcs.
Oh, les parcs à Paris. My God, tu sais que je devais y aller.
Une autre fois.
Alors, c'est quoi, les plages, les restos aussi, on a annoncé à un moment donné, ça va être en juin qu'ils vont pouvoir ouvrir les
plages, ça dépend toujours des pays, là. Entre autres en Espagne, les plages qui rouvraient depuis déjà quelques jours, il me semble. Alors, un peu partout, ça se déconfine, c'est des bonnes nouvelles, alors que d'autres pays comme le Brésil devraient se confiner davantage, mais on sait que le gouvernement brésilien n'est pas très chaud à l'idée.
Le débat sur l'hydroxychloroquine qui est loin d'être terminé. Sophie, justement, Durocher, ma conjointe, avait une chercheure de McGill hier, je crois.
C'est Cusum, Dr. Emily McDonald.
Exactement. Eux autres, ils continuent avec l'hydroxychloroquine. Ils vont faire des recherches parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose, là.
Oui, effectivement, parce que en fait, c'est qu'elles font présentement des essais, des études sur l'hydroxychloroquine, effectivement, au Cusum, et on s'inquiète parce que l'apparition extrêmement médiatisée, puis on en a beaucoup parlé, d'une étude dans The Lancet là, sur l'hydroxychloroquine qui avait arrivé comme conclusion que ce n'était pas efficace, même peut-être néfaste. Mais
il y a des gens qui disent qu'elle était mal faite, cette étude-là.
Effectivement, de sorte qu'aujourd'hui, une dizaine de scientifiques ont publié une lettre ouverte exprimant leurs inquiétudes sur cette méthode parce que ce que l'étude a fait, c'est que pour les autres études qui ont lieu présentement dans le monde sur des patients, ça a causé de la peur. Alors là, pour les études actuelles, et c'est ce que Dr. McDonald racontait hier à Sophie Durocher, c'est qu'on a de la misère à trouver des gens qui veulent tester de l'hydroxychloroquine parce qu'on leur a dit que c'était dangereux, peut-être même néfaste, alors qu'eux n'arrivent peut-être pas à ces conclusions-là. Et dans la lettre ouverte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs experts, même de Harvard ou du Collège de Londres, qui disent, moi, j'ai des doutes là, sur la chloroquine. Je dis pas que c'est bon, mais le choix de faire des études ou pas devrait reposer sur de bonnes de bons chiffres. Et dans ce cas-là, pour l'étude qui a été publiée dans The Lancet, on se pose beaucoup de questions.
Bon, fait, et là, le résultat de ça, c'est qu'on est fourré.
Oui,
c'est moi, quoi, là, je sais plus. Là, quand les études se contredisent, les médecins se chicanent entre eux autres. J'ai fait une étude, fais ton étude, mais ton étude n'est pas bonne, mon étude est bonne. On regarde ça, on est fourré.
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'études. Là. En fait, il y a les études plus sérieuses ne semblent pas montrer que la chloroquine, c'est la solution. Mais vu qu'il y a plusieurs études sérieuses qui sont encore en cours, ben, eux demandent au moins qu'on puisse terminer et arriver à la fin des et pour voir les résultats. Parce que dans certaines recettes versus d'autres, ça pourrait peut-être mieux fonctionner.
Donald Trump en prend.
Il en prend plus. Là. Il a dit qu'il en prenait plus. Là. Non,
il
a arrêté.
Il continue l'isole. les relations sexuelles en baisse pendant la pandémie, est-ce que la masturbation est considérée comme une relation sexuelle?
Je pense pas. Pour le Journal of Sexual Medicine qui publie une étude sérieuse aujourd'hui sur le sexe chez les Britanniques, et on se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, les relations sexuelles sont grandement en baisse depuis
mais
le début.
Mais les enfants sont à la maison.
T'as raison, c'est probablement un bon point. Oui. Évidemment, t'as les gens vivant seuls. C'est ce qu'on dit. Alors, je suppose qu'on calcule pas la masturbation comme étant une relation sexuelle. Mais on se rend compte que 40% des Britanniques, on peut penser que les chiffres ressemblent à ça chez nous, n'ont pas eu... Seulement 40% affirment avoir eu au moins une relation sexuelle par semaine depuis le début du confinement. Alors, 60% des Britanniques, c'est moins que ça, là. C'est un en bas de 1. En bas de 1 par semaine.
Ouais, mais c'est les Britanniques, tu sais. Ils sont froids un peu, les Britanniques. Ils sont flegmatiques.
Ceux qui sont le plus susceptibles de partager là, des moments plus érotiques, c'est les jeunes hommes mariés qui consomment de l'alcool. Pour vrai, écoute, c'est l'étude qui dit ça. Et à l'inverse, les gens plus âgés, évidemment ceux vivant seuls, sont moins chanceux. Mais on rappelle que...
Mais paraît Tinder, ça fonctionne au bout, hein?
Oui, ça a quand même pas arrêté.
Ça a pas arrêté par tout.
Qui ont continué. Une étude américaine, quand même, ce qu'on dit qu'il y a du sérieux là-dedans, là, dans le fait d'avoir des relations sexuelles, a démontré que la fréquence, la qualité des rapports sexuels protégeait contre des problèmes cardiovasculaires et que l'absence d'activité sexuelle pouvait amener 22 problèmes de santé chez les personnes de 55 ans et plus.
22. Pas 23.
Pas 23.
22, pas 21. Exactement. 22 problèmes de santé.
Alors, gênez-vous pas, surtout avec le déconfinement. D'ailleurs, hier, et j'en parlais avec Jonathan Trudeau, en Suisse, on déconfine, enfin, on réouvre l'industrie de la prostitution, qui est légale en Suisse, mais on a une liste des positions qui sont sécuritaires pour la COVID-19.
Il y a des positions qui sont plus sécuritaires que d'autres.
Effectivement, je te laisse imaginer lesquelles.
La brouette thaïlandaise se situe où?
Est-ce que c'est dangereux? Dans la liste, mais en fait, vous comprenez, c'est les positions où les bouches doivent être le plus éloignées.
La levrette. C'est la levrette.
C'est la plus sécuritaire. Alors, c'était,
comme chantait Jim Morrison, c'était dans I la want liste to be your backdoor man.
Des bonnes façons de faire en Suisse.
OK, parlant de sexualité, André Boisclair.
Oui, non, on entre dans la section hors COVID, Richard, parce que hier, cette nouvelle qui a fait grand bruit là, dans le monde politique et en général au Québec, ces accusations d'agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers sur l'ex-policier André Boisclair, ben, il s'est présenté ce matin au centre opérationnel Est de la police, pour prendre ses empreintes digitales, parce que c'était donc un mandat d'arrestation visé, alors où lui doit se présenter, puis ensuite on va lui expliquer la suite des procédures.
Mais il y avait un masque, on ne pouvait pas voir quelle face faisait.
On va voir ses yeux, mais effectivement pas qu'il avait un grand sourire sous le masque. Il portait effectivement son masque de protection, arrivé à bord d'un VUS ce matin vers 8h avec son avocat, n'a pas fait aucun commentaire, vous rappelez.
Mais excuse-moi, là, parce que ça a l'air qu'il aurait fait ça, il l'aurait, parce qu'il faut quand même utiliser le conditionnel, oui. Il aurait commis ce crime avec une autre personne. Est-ce que l'autre personne aussi a été arrêtée?
Selon nos collègues du bureau d'enquête, ça s'en viendrait possiblement, là, cette arrestation d'une deuxième personne, mais ça, c'était pas confirmé encore. On dit, là, selon le mandat d'arrestation, les accusations qui visent la même victime, parce qu'il y a deux accusations, là, qui n'est pas identifiée, donc, à part par ses initiales, et le tiers qui n'est pas nommé, mais selon les informations de nos collègues, une arrestation pourrait avoir lieu très bientôt.
Et est-ce que c'est vrai, la rumeur, voulant que l'arme du crime soit un jouet sexuel?
C'est ce que j'ai entendu aussi, mais j'ai pas eu de confirmation en ce sens. Mais on parle pas d'une arme à feu, là. Ou
comme un coup de dildo sur la tête, là.
Je peux pas te... Je peux pas répondre à cette question en ce moment.
Les manifestations, bien sûr, qui se poursuivent à Minneapolis.
Écoute, quelle histoire aux États-Unis, c'est ce qui prend toute la place aujourd'hui. Peut-être effectivement pour la première fois là, depuis le début de la pandémie, c'est une autre nouvelle qui ébranle les États-Unis. Manifestation, encore une fois, très importante à Minneapolis hier, au point où un des postes de police de Minneapolis a été incendié. On parle d'un incendie là, très fort, au point où les policiers ont dû évacuer vers 22 heures par précaution là, pour protéger les policiers. Il faut dire que la majorité de la manifestation s'était passée de façon pacifique, mais à certains endroits, ça a dégénéré avec du pillage également. Le gouverneur de l'État du Minnesota, Tim Walz, qui a signé un décret pour autoriser l'intervention de la garde nationale. D'ailleurs, c'est 500 soldats qui arrivent dans les prochaines heures, 200 policiers de l'État, ainsi que des hélicoptères. D'ailleurs, il disait, le gouverneur, la mort de George Floyd, évidemment, on fait référence à cet homme noir qui est mort pendant son arrestation. La mort de George Floyd doit apporter de la justice et des réformes de fond, pas plus de morts et de destruction. Et parlant de tout ça, deux éléments importants ce matin, entre autres l'arrestation d'une équipe de CNN en plein direct.
Ben oui.
Tantôt, donc en plein reportage vers 5 heures ce matin.
Et le journaliste, comme par hasard, était noir.
Non, je pense pas. Ah, étais-tu noir? Il ne m'apparaissait pas. Okay. Tu vois, je l'ai peut-être mal identifié. Et c'est Omar Jiménez. Alors, mais effectivement, arrêté avec le caméraman aussi et l'équipe technique parce que les policiers disent qu'on leur demandait de se tasser et ils ne l'auraient pas fait, mais ils étaient en plein direct pour avoir couvert plusieurs manifestations. Écoute, d'habitude, les policiers, ils te laissent juste bousculer par des boucliers, là, mais on t'arrête pas dès que tu peux pas te déplacer parce que t'es en direct. D'ailleurs, on les a relâchés vers 7h30 ce matin, sans accusation, finalement. Et Donald Trump, pour terminer, qui a vu Twitter signaler un de ses tweets à nouveau, après qu'on ait signalé comme étant des informations fausses plutôt cette semaine. Donald Trump qui a vu là, Twitter signaler un de ses tweets pour apologie de la violence. Un tweet qui viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence, au dire du réseau social, parce qu'il a écrit « When the looting starts, the shooting starts ». Donc, quand les pillages démarrent, les tirs démarrent, qu'on peut interpréter comme une invitation à tirer sur les pillards. Là, dans les, alors, Donald Trump qui... d'ailleurs, la Maison-Blanche a retweeté ce tweet, disons, signalé par Twitter. Et là, dans les dernières minutes, Donald Trump tweetait contre Twitter. Alors, écoute,
c'est n'importe
c'est
quoi.
C'est un peu spécial.
My God, écoute, puis c'est pas fini, là, les émeutes là, aux États-Unis là-dessus. Là. Ils sont pas sortis du bois. Mais merci beaucoup, Vincent.
Merci,
n'oublie pas la levrette.
C'est la plus safe. Il y avait la... Parce que Jonathan Trudeau l'avait googlé, la Reverse Cowgirl.
La Reverse Call Girl.
Ça, vous googlerez ça, mais c'était autorisé.
Je vais essayer ça en soirée.
C'est autorisé pour contre la COVID.
Reverse Call Girl.
Oui.
OK, je vais voir ça dans la pause. Merci beaucoup.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
Vous écoutez
Politiquement Incorrect.
Alors, le confiné du vendredi, on parle tout le temps le vendredi à une personnalité confinée. On a eu Michel Barrette, on a eu Luc Dionne la semaine dernière. Et là, c'est avec beaucoup de bonheur. Je parle à Peter McLeod. Salut, Peter.
Salut Richard.
Hey, je suis vraiment content. Merci beaucoup de prendre du temps. Écoute, avant de parler de ta vie de confiné, là, il faut se parler. Il faut se parler de Maxi.
Ah ouais.
Écoute,
C'est triste, hein. Tellement triste. Parce que moi, j'avais pas vu la publicité hier, puis j'étais là, voyons donc. Tu sais, puis il me semble que je me dis une grosse campagne comme Maxi avec un gars. Je pense que Martin Matt, c'est un gars qui a quand même pas mal de bon sens, là, puis aime ça beaucoup de marcher sur une ligne que moi j'apprécie énormément. Mm. Très provocateur, mais ça, écoute, c'est bien rare qu'il. Mais j'ai hâte de l'avoir. Hey, je vois ça un peu. Il n'y a rien dans ça.
Il n'y a rien. Quoi,
c'est une grosse caricature. Puis, hey, on est rendu. Je ne sais pas que ça aura l'air les pubs dans 10 ans, mais probablement que. L'humour est terminé. On va faire des gaguettes.
Mais ça n'a pas de bon sens. T'sais, il rit des gens qui ont pris du poids dans le confinement, ce qui est le cas de 90% des Québécois. On a tous pris du poids en confinement. C'est tout.
On peut le voir d'une autre manière aussi, Richard. On peut dire que, dans le fond, il promouvoit des produits. Il promouvoit de consommer québécois. Puis il dit que c'est tellement bon aussi que je suis pas grave. Tu comprends ça? On peut le voir de différentes manières. Mais à partir du moment qu'une personne qui a un problème de poids ou de glandes, de ce que tu veux, regarde ça, puis il se sent baisser, ben là...
Oui, parce qu'il dit, je prends ma tomate Savoura, puis je la mets dans la crème glacée Coaticook. Ben là, il parle des problèmes. Mais tu sais, je suis allé voir ton show, là, Peter. Puis dans ton show, là, on s'en est parlé, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, les Chinois, c'est pas les meilleurs conducteurs au monde. Ce qui est vrai. Puis devant toi, ils ont d'autres talents extraordinaires qu'on n'a pas. Ils sont super bons en, je sais pas, en technique, en mathématiques. Bon, je sais pas, hein. Bon, mais... Puis il y avait un, tu disais ça sur scène, puis devant toi, il y avait un Chinois, puis il riait, puis il trouvait ça drôle.
C'est tout le temps... c'est ça. Il y a une espèce de clic que les autres trouvent ça épouvantablement provocateur, qu'est-ce que je fais là. Puis de l'autre côté, écoute, tu sais, moi, j'ai tout le temps vu ça, d'être capable de rire un peu aussi des gens qui peuvent être différents ou de d'autres nationalités. C'est un peu comme quand on était dans la cour d'école, quand on était jeune. C'est comme si la journée que les gens les plus vieux que tu veux avec qui tu voudrais te tenir, la gang, ils commencent à t'agacer, puis à te faire des farces. Hein, tu fais, hop, je commence à faire partie de la gang, moi.
Ben oui.
Puis c'est un peu de même. Tu sais, moi, j'ai tout le temps vu ça comme ça, puis c'est ça. Les gens qui s'en irritent, c'est tout sauf les communautés que j'ai fait des blagues sur eux autres. Ça a été d'autres personnes. Ça mérite d'autres gens.
Ben oui, la cour d'école, pour prendre la métaphore de la cour d'école, t'as une gang de chums, puis il y en a tes chums qui est en fauteuil roulant. Puis lui, ouais. Tout le monde se gosse dans la gang, tout le monde se gosse, mais lui, on n'ose pas le gosser, puis on n'ose pas rire de lui parce qu'il est en fauteuil roulant. À un moment donné, il va dire, pouvez-vous rire de moi aussi, parce que ouais. Je veux faire partie de la gang.
Il va être content un matin que t'arrives, puis tu le regardes, hey, ça roule le gros.
Ben oui.
Oh, oui, ça roule, puis là, écoute. Ça, c'est une belle manière, c'est un plein d'œil, tu sais. De toute façon, je pense qu'on là-dessus, on fait assez d'années qu'on s'en parle. C'est triste où que ça s'en va. Là, à commencer, il y a quelques années, je parlais de ça politiquement correct dans mes shows, il y a une douzaine d'années, tu sais. Puis ce politiquement correct-là est rendu à pratiquement. On est muselé, on n'a plus le droit de. On peut plus beaucoup s'exprimer. Les minorités sont rendues tellement fortes. Je te dirais que. L'homme blanc coquin vient.
Ben oui.
Il est en voie de disparition.
Ben moi, j'ai peur qu'à un moment donné, un propriétaire de salle de spectacle dise « Ah, le show Peter Medlin, non, moi, je veux pas l'acheter, ce show-là, parce que je veux pas avoir de marde, je veux pas avoir de gens qui font des protestations. » Puis tu sais, à un moment donné, là, c'est dangereux, cette pente-là. Là.
Bon, on est là, malheureusement. Ça fait que c'est... Mais en même temps, je veux dire, moi, je me sens pas menacé. Parce que je suis encore une personne qui a la chance, un peu comme toi, d'avoir une fenêtre sur Montréal, puis je peux encore m'exprimer. Mais en même temps, oui, il faut toujours faire attention. Mais je veux dire, le bon sens, c'est où la confiance? Je ne suis pas quelqu'un qui va, comment je te dirais ça, qui a des idées noires. Moi, je pense qu'à un moment donné, le bon sens va prendre le dessus. Tu sais, qu'est-ce qu'on vit présentement dans cette pandémie-là? Il y a des choses épouvantables qu'on vit, il y a des choses épouvantables qu'on voit, mais de l'autre côté, il y a des belles choses qui ressortent de tout ça. Là.
Toi, tu es un gars de bois, là. Fait que actuellement, là, tu vas être à ton chalet.
Non, j'ai resté à Repentigny parce que moi, j'ai continué à travailler, puis je n'avais pas le choix d'avoir du Wi-Fi. J'ai été confiné, moi, à partir de la première semaine, moi, chez moi. Quand tout ça a commencé, j'ai fait une semaine au centre de ville, puis on m'a dit, gars, on aimerait ça de temps. Puis écoute, contre toute attente, je mais. C'est ça, ça va vraiment bien. J'en parle souvent en autre. Colin, la seule en fait qui est fatiguant, je suis à peu près à 4-5 pieds du frigidaire. Fait que tu sais, pendant le show, souvent, j'entends les autres qui sont en studio. Des fois, ils font, moi, on dit que j'ai faim, genre d'être chez nous. Hey, moi, je suis chez nous. Fait que j'ai tout le temps quelque chose à portée de la main.
As-tu pris du poids?
Tu me disais que j'étais un gars de bois, mais je me suis garoché dans le bois pareil.
As-tu pris du poids?
Ben, c'est parce que là, j'ai peinturé ma maison avec quasiment bois à l'intérieur. C'est tout. J'avais fait venir un ébéniste de plusieurs années. Fait que j'ai rafraîchi ça, j'ai mis ça tout blanc. Je suis parti sur un concept. Pour vraiment mon anxiété de confinement, moi, je me suis mis à un mode noir et blanc. Écoute, ma cuisine est noire avec des contours de fenêtre. Ma cuisine est toute blanche avec des contours de fenêtre noires. Puis j'ai continué dans les pièces. Et là, je me suis rendu que dans le salon, chambre d'amis. J'ai eu du plaisir à faire ça, je peux pas t'expliquer, mais je pense que la créativité, c'est le meilleur remède quand on vit des choses comme ça. Là.
Ben oui, est-ce que tu as pris du poids? Est-ce que tu manges plus, tu bois plus?
Je bois plus, tout ça, mais j'ai pas pris de poids. Moi, j'ai une génétique qui fait vraiment chier du monde. Je prends pas nécessairement de poids. J'ai une génétique de mannequin, tu sais.
ça me fait chier, mon gars, là. Ça, là, c'est pas juste. Le monde est injuste.
Le monde est injuste. Non, mais ça, écoute, j'ai papoté comme un fou. Et non, j'ai pas fait de pain. Richard, je me suis pas garoché là-dedans. j'aime encore mes dents. Ma dentition va très, très bien. J'ai une belle dentition. Puis, faire du pain. Moi, les gens que j'ai vus faire ça, moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont trouvés avec une coupe de dents cassée. Puis, les dentistes sont toutes fermées. Fait que t'es dans la merde un peu.
Là, fait que là, il y en a qui se découvrent des talents de cuisinier qui ne savaient pas qu'il y avait. Toi, tu t'es découvert des talents de bricoleur. C'est ça, tu fais de la rénovation.
Oui, j'ai bricolé, j'ai peinturé. Écoute, je me suis remis à écrire comme un fou. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Puis, parallèlement à ça, je peux pas t'en parler tout de suite. Mais, Crème, j'étais en train de me partir une petite compagnie. Puis, ça a tout fini. Tu sais, des affaires dans la vie, tu veux te faire quelque chose à un moment donné, puis tu sens que tu forces. Mais ça, tu sais, quand tu sens que les planètes sont complètement alignées, fait que c'est ça, de fil en aiguille. Écoute, je te dirais rien à part que c'est pas ça le produit. Mais je veux dire, d'où que ça a commencé. Un soir, pour le plaisir, écoute, il me restait du bois parce que j'avais fait des petits traîneaux dehors dans ma cuisine d'été. Puis, il me restait des super de belles grosses planches, très larges, à peu près 12 pouces de large. Puis, j'ai coupé ça 12 pouces par 14 pouces. Et avec mon espèce de comment t'appelles ça, mon chalumeau, je me suis mis à brûler ça puis à m'amuser. Puis, le lendemain, en radio, je racontais que je me suis fait des assiettes à pizza. Parce que, dans le fond, en arrière de tout ça, ça a tout commencé avec l'achat d'un four à pizza, qui est probablement, dans les 20 dernières années, un des plus beaux achats que j'ai fait de ma vie.
Ah oui.
Le bonheur qui vient avec un four à pizza, ça s'explique mal, là. Tu sais, à quel point je suis heureux de faire ma part, de faire mes affaires. Puis, à cause de ces assiettes-là, j'ai compté ça. Mais là, écoute, on a défoncé notre messagerie texte de gens qui voulaient avoir des assiettes à pizza. Puis, c'est pas vrai qu'ils vont m'installer à mon garage le soir, ils vont faire des assiettes en bois tout le temps. Mais il m'est venu une idée de là, puis je te dirais que dans les prochains mois, vous allez entendre parler de quelque chose, puis c'est tellement, tellement le fun. Moi, ça me sort de mes
pensées. OK, tu vas faire comme Laurent Duvernay-Tardif, là. Tu vas faire tes pots. Non?
Non, c'est ça. C'est, tu vas voir. Ça va me faire tellement plaisir de te rappeler parce que quand on va faire ce petit lancement-là, mais hier matin, juste en raccrochant avec toi, j'ai un beau meeting là-dessus encore pour le.
OK. Ah, cool. Ben, c'est le fun, ça.
J'ai marketing de tout ça. Ouais, c'est bien
cool. Écoute, pour ton four à pizza, là, viens pas me dire que toi, t'es un pro ananas à pizza, toi.
Hey, moi, je suis. Si tu me dirais, tu sais, la fameuse question qu'on se fait tous poser en show business. Un jour dans notre vie, si, exemple, il y a juste une chose que tu pourrais manger le reste de ta vie, mais moi, c'est sans hésiter, c'est la pizza de pizza. T'sais.
C'est quoi?
Pas, mais ce serait la pizza.
La pizza, mais pas la pizza ananas, quand même, là.
Ah, oh, non, ben non, l'ananas, ça va pas là-dessus, ça. Ben. Voyons donc. Puis en passant, des oignons non plus. Ça, là, je peux pas croire que le monde mette des oignons, des fois, sur une pizza. Des oignons, ça va d'un moutard chaud. Oignons, ça va pas sur une pizza.
Est-ce que tu trouves qu'on exagère avec le confinement, la distanciation sociale, puis qu'on est en train de paranoïer bien raide, là?
Moi, je suis pas convaincu. Non, je pense. Moi, je vais t'avouer que je sais pas si. Je pense pas que je suis ça, mais je suis très, 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 très fier de notre premier ministre. Hein. Mm. J'aime beaucoup, beaucoup comment ça se passe. Puis, tu sais, c'est dur parce que, écoute, tu sais, moi, mon père, j'étais jeune, me souvent dit, tu sais, tu peux être déçu de la décision que tu as prise, mais tu sais, sois pas fier de toi si tu n'en as pas pris de décision. Puis c'est dur parce que cet homme-là, parce que depuis pratiquement 3 mois, écoute, il est obligé de prendre des décisions tout le temps. Puis ces décisions qui sont toujours vers l'inconnu. Tu sais, la bête noire de l'être humain, à mon humble avis, c'est l'inconnu. Tu sais. Puis écoute, cet homme-là, il se tient droit, toujours patient, arrive toujours au point de presse avec une bonne humeur, il essaie tout le temps de donner un peu d'espoir au peuple. C'est un grand homme. Moi, de la façon qu'il réagit dans cette crise-là, moi, j'ai vu un homme exceptionnel dans tout ça. Puis, Dr. Arruda, je fais partie de. Je suis rendu dans la secte de ça. Moi, je vais l'amener tout de ce monsieur-là. Puis, hey, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, souvent, tu fais des soupers avec ta blonde, là.
Oui. Un peu,
hey, si jamais tu veux m'inviter avec Dr. Arruda puis monsieur Legault, là, hey, n'importe quand. Moi, je m'assois là, mon gars, puis je me prends un popcorn.
Mais c'est vrai que ces gens-là travaillent comme des fous, puis ils prennent des décisions, puis des fois, ils peuvent être critiqués, puis tu sais, on ne sait pas, on est dans l'inconnu, comme tu dis, on n'a jamais vécu une affaire de même, puis ils sont pas orgueilleux. S'ils disent on s'est trompé, ils vont le dire, là.
Ben, depuis le début de son mandat, cet homme-là, tu as remarqué que des fois, ils ont été, les gens disaient au début, mon Dieu, c'est un signe de fait, ils ont pris une décision trop vite, puis là, ils sont obligés de reculer. Non, je trouve ça beau, moi.
Oui.
Je trouve ça beau, moi, voir quelqu'un dire, c'est-tu quoi, là, quand on a pris la décision, on a pris en considération telle affaire, mais malheureusement, on avait peut-être oublié de prendre ça en considération. On a décidé de reculer. Wow.
Wow. Non, je trouve ça très bien. Puis en terminant, écoute, j'ai parlé à Michel Barrette, que tu connais bien. Michel, il a hâte de monter sur scène. Puis tu le sais qu'il y a un petit théâtre chez lui où il demeure. Puis des fois, il dit qu'il va sur scène, puis il fait comme un numéro devant les salles vides, là, devant les chaises vides, rien que parce qu'il aime ça être sur scène.
Ça, c'est Michel à son meilleur.
Oui, c'est du Michel. Mais toi, as-tu hâte de monter sur scène? Ça te manque-tu au bout? Ça te gratte?
Non, quelqu'un qui est capable de partager les deux. Puis en plus, obligé de dire, je vois beaucoup d'artistes qui trouvent ça très, très, très difficile. Puis c'est une période où j'étais en empathie. Moi, je pense que j'ai jamais été en empathie de moi, mais je m'énerve. Tu sais, je suis devenu très sensible à la cause de beaucoup de gens qui se sont trouvés dans une situation très, très précaire à cause justement de ça. Mais moi, là, c'est arrivé dans un moment, Richard, où que je venais de terminer une tournée. Tu sais, j'ai cancellé peut-être une dizaine de spectacles un peu plus privés, corporatifs. Là.
Oui.
Puis j'ai la chance encore d'avoir un micro sur Montréal. Fait que, tu sais, je gagne ma vie. Ça, c'est un privilège parce qu'il y en a plein de gens qui ont perdu carrément leur gagne-pain.
Tout à fait. On n'a pas à se plaindre. Ouais. Si on gagne notre vie, on n'a pas à se plaindre.
Puis je suis en train, exactement. Puis je suis en train, moi, de me reposer de la dernière belle grosse tournée que j'ai faite dans tout le Québec. Fait que tu comprends que je suis pas en manque de rien. Ça se pourrait que je me surprenne un matin ou deux avec un séchoir à feu à faire un petit film devant le miroir. Mais je suis pas encore rendu à faire des jokes. Je chante.
t'es pas aussi malade que Michel. Hey, merci beaucoup, Peter. C'est super gentil. Tu sais que je suis ton fan numéro un. Là. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler, Peter Maitland.
Ben, gros deck, puis bonjour à tous les auditeurs. Passe une belle journée, mon Rich.
Salut, bonne journée.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
Alors, nous discutons avec une personne d'affaires. Hein. J'utilise le langage épicène. Je dis pas homme d'affaires parce que ça serait sexiste. Donc, je dis personne d'affaires. François Lambert, bonjour François.
Bonjour. Est-ce que je dis Monsieur Martineau aussi? Non, dans le même,
bonjour, cher individu.
Ah ben oui, là on se comprend.
Personne qui fait de l'animation, t'as vu, c'est selon le langage épicène, parce que la ville de Montréal veut utiliser le langage épicène. D'ailleurs, il y a eu un vote et tous les conseillers ont voté pour. Il n'y a personne qui a voté contre. C'est incroyable. Alors là, au lieu de dire nous demandons un responsable, mettons, du marketing, on va dire nous recherchons un responsable du marketing. On ne mettra plus
une personne. Je pense qu'ils peuvent dire une personne.
Une personne responsable du marketing. Esprit, ça, c'est ce qu'on appelle, en bon québécois, de l'enculage de mouche.
Vraiment. C'est exactement ce que j'allais dire aussi. Richard, on est en pleine, encore pandémie. La ville de Montréal est parmi les pires dans le monde. Et tout devrait être mis en œuvre pour regarder les finances de la ville. Regarder comment on peut... déconfiner Montréal en toute sécurité. Comment on peut revenir à une vie normale sans retomber dans la deuxième vague? Et la priorité des gens qui ne savent pas gérer, qui n'ont jamais géré de budget, qui n'ont aucune idée c'est quoi gérer pour vrai, parce que là, on le voit dans la situation actuelle, Richard, que c'est facile gérer quand tout va bien. Quand l'argent rentre à profusion et que tout va bien, on gère pas. On dispatche. OK, il y a de l'argent, on s'en va à gauche, on s'en va à droite. Wow! Là, on est obligé de gérer, ils sont pas capables. Et là, ils arrivent avec un programme complètement débile mental qui prouve leur incapacité.
Non, mais il n'y a aucun conseiller qui a voté contre. Unanime.
Richard, c'est tous des gens de la gauche qui ne savent pas gérer. Ils veulent faire plaisir à qui? C'est quoi l'urgence de ça? On veut faire plaisir à qui? Et ça va donner quoi?
Écoute, d'ailleurs, j'invite les gens à lire l'excellente chronique de Christian Rioux dans Le Devoir aujourd'hui sur le vocabulaire épicène. Puis je tiens aussi à lever mon chapeau à Émilie Dubreuil, la journaliste de Radio-Canada qui a sorti ça. Toi, tu dis, tu l'as un peu accusée en disant qu'elle était pour le langage épicène. Je pense qu'elle critiquait là, dans son reportage, Émilie Dubreuil. Elle était assez ironique, là, me semble.
Ben, j'ai peut-être mal compris, mais la réalité, c'est que, tu sais, on est rendu là, que c'est tellement, on veut tellement être politiquement correct que ça devient ridicule. Tu sais, à un moment donné, il faut pousser le ridicule à une limite pour dire, OK, ça n'a plus de sens où est-ce qu'on s'en va. Moi, honnêtement, c'est le genre de choses-là, alors que la priorité devrait être comment on va faire pour gérer le budget de la Ville de Montréal qui explose, qui ne le gère pas.
Mais puis François, en même temps, là, il nous dit, là, pour revenir à la gestion de la Ville de Montréal, on nous dit qu'il faut aider les commerces. C'est le déconfinement. Il faut aider les commerces, Mais là, on va transformer la ville en piste cyclable. En quoi ça va aider les commerces?
Ça va aider que les gens... de, tu sais, admettons que, regarde, je suis à Outremont aujourd'hui, je suis ici toute la journée, je vais coucher ici. Admettons que je voudrais aller chez Milano. On ferme la rue. Bon, je peux plus y aller. Moi, ça commence à être compliqué se stationner lorsqu'on ferme beaucoup de rues.
Finalement, ils ont reculé là-dessus. Hein, là, il va pouvoir avoir des autos sur le boulevard Saint-Laurent, mais Christy, tu sais.
Ben, tu sais, Richard, à un moment donné, là, on a voulu donner une claque sur la gueule à Denis Coderre. On voulait tout sauf lui. Mmh. Et le tout sauf lui, c'était l'homme de la situation, Valérie Plante. Parce que c'est ça qu'elle avait marqué sur ses campagnes électorales.
Ben écoute, c'est comme ça qu'elle a été élue. Les gens avaient adoré son slogan.
Ben oui. Donc là, on est pris avec des gens qui ne savent pas gérer. Regarde Justin Trudeau, ce qu'il fait. Donner de l'argent à tout le monde, il est dans le top des intentions de vote alors qu'il n'a rien fait dans la crise. Là. Donner de l'argent, Richard, avec tes enfants, là, donne-leur de l'argent, tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent.
Rien de plus facile.
Tu vas être le père le plus cool. La minute, tu vas leur dire, non, pas cette fois-ci, ils vont te faire une crise de bacon, peu importe l'âge qu'ils ont.
Ah, okay, mais les gens aiment ça. Les gens aiment ça, ça a l'air le Père Noël, puis ils croient encore au Père Noël, parce que son taux d'approbation et de satisfaction, c'est énorme. Donc, les gens comprennent pas que c'est leur argent, là. Je te donne ton argent. Moi, je vais aller prendre 50 piastres dans ton portefeuille, puis je vais te donner 30 piastres, puis je vais te demander de me remercier.
Effectivement, mais la réalité, c'est que les gens vont commencer à déchanter dans 2 ans, lorsque la facture réelle va arriver, lorsque les taux d'intérêt et que le gouvernement va devoir prendre des choix. Les villes vont devoir faire des choix éventuellement. Ils ne peuvent pas avoir de déficit, c'est dans la loi. Donc, toute la non-gestion qu'on a en ce moment, je ne dis pas qu'il ne fallait pas donner de l'argent rapidement pour ne pas étouffer l'économie, mais il faut que ça arrête à un moment donné, puis ils l'ont donné à trop de monde trop rapidement pour ne pas avoir à gérer. Mais dans 2 ans, et c'est pour ça qu'on risque d'avoir des élections assez rapprochées, parce que quand la facture va arriver puis que Trudeau va devoir rendre des comptes, il va falloir qu'ils disent « Ah, faut que je monte la TPS. Ah, faut que j'aille dans les coupures. »
Ben oui.
« Ah, il faut que j'augmente les impôts. » Parce que là, ça prend de l'argent. On prend de l'argent de haut du pétrole. Le pétrole nous a fait vivre au-dessus de nos moyens pendant plusieurs années. C'est fini maintenant. Le pétrole, on le subventionne pour le maintenir à flot. Le prix du baril du pétrole en Alberta se vend moins cher qu'il coûte à produire, se vend plus cher qu'il coûte à produire. Donc, on n'a plus d'argent provenant de là. On va le créer où? Dans les mines au Québec. C'est non pour tout.
Donc, ça va être quoi? Ça va être encore taxé puis imposé. Ça va être ça. C'est tout le temps ça, la réponse.
Il faut taxer les services. Il va falloir taxer davantage la consommation de biens. On vient de prendre un déficit qui était déjà astronomique à 30 milliards moyenne par année depuis que Trudeau est là. On vient de le grimper à 260, les chiffres officieux, c'est pas les chiffres officiels encore, et on continue à dépenser, donc on va frôler probablement le 300, 350 milliards, rajoute la province, rajoute la ville, et à la fin, il y a un seul contribuable pour payer 3 factures astronomiques. Et quand on voit que on met un grand attention sur la façon de nommer les personnes pour faire plaisir à eux, ils se font plaisir à eux en se votant des affaires comme ça, ils n'iront pas contre Valérie Plante. Ils l'ont mis
non, mais
place.
Si les gens veulent savoir à quoi ressemblerait un Québec avec un gouvernement solidaire, venez à Montréal. C'est ça, parce que c'est ça, là, c'est la gang de Québec solidaire à Montréal qui mène.
Oui, et qui mène à Ottawa? Le NPD. Justin Trudeau se comporte, il donne exactement ce que le NPD veut avoir parce qu'ils ont besoin de son bar. Donner 10 jours de maladie de congé de maladie à tous les Canadiens, c'est une mesure du NPD. Donc là, on est vraiment dans la gauche qu'on ne voulait pas au pouvoir, et c'est la gauche qui nous amène. C'est pas un débat de gauche-droite, là. Moi, je suis de droite économiquement, mais je me considère de gauche socialement.
Ben oui.
Mais je n'aime pas ce que je vois en ce moment dans des pertes de temps. Puis quand je vois la ville de Montréal qui n'a fait aucune coupure, à peine 4 milliards, ils ont dit 4 millions de coupures dans les journaux ce matin, c'est très, très peu.
Dans le domaine, le domaine de l'entreprise privée, tout le monde se serre la ceinture. Il y a des gens qui ont perdu leur job. Il y a des... Ils ferment des succursales, ils réaménagent, etc. Mais dans l'État, la fonction publique,
Rien. Rien. Ils n'ont pas réaménagé le travail. Ça se peut qu'on ne veut pas couper puis pour maintenir l'économie à flot. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais les gens ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils faisaient avant la COVID et offrir les mêmes services si on n'a pas besoin des mêmes besoins par la suite. Il faut que tout le monde se réinvente, comme toutes les entreprises, comme tous les médias doivent se réinventer. Regardons comme Ricardo Media, qui n'arrachait avant avec les ventes de ses magazines, puis il avait fait une sortie, mais comment tu penses qu'il doit patiner? Bon, on l'a vu aller plus sur Facebook, on l'a vu, il est obligé de se réinventer. Tout le monde doit se réinventer.
Mais pas la fonction publique. Eux autres, écoute, en terminant, je veux absolument savoir ta réaction face à ce qui se passe aux États-Unis. Tu as vu certainement la vidéo de l'arrestation de George Floyd. C'est vraiment révoltant. Là.
C'est vraiment révoltant. Et puis quand tu regardes le track record des deux policiers.
Oui, leur historique.
Leur historique, merci. En 15 ans, il y en a un qui a 14 infractions. Pas toutes, mais celui qui avait le genou sur la personne. Et c'est une poudrière. Dès que quelque chose se passe aux États-Unis, c'est une poudrière. Et comment des policiers ont réussi à faire encore foutre le bordel total dans toutes les États-Unis, même au Canada, avec une arrestation encore trop de force? Richard, c'est pathétique et on n'est pas sorti du bois. Ils ont créé un monstre pour des années.
C'est fou. Tu sais, les gens, la gauche québécoise là, qui chiale là, contre le racisme systémique au Québec, ça n'existe pas. Tu veux du racisme systémique? Regarde aux États-Unis. Effectivement, là, la façon dont les policiers traitent les Noirs aux États-Unis, c'est inquiétant. Mais les gens, il y a une gauche qui regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis ils tentent d'appliquer cette grille de lecture-là au Québec. Mais c'est pas la même affaire ici, là. Pas vrai?
On n'est pas du tout dans la même affaire, là. Du tout. Écoute, il y a très longtemps, j'étais à San Francisco, je marchais avec un ami, et il a commencé à sortir sa caméra pour regarder l'architecture, puis on s'est ramassé dans le coin des Noirs extrêmes pauvres de San Francisco, là. Vraiment, tu veux pas être là.
Ah ouais.
Et non, j'ai eu la chienne de ma vie, puis on dit, qu'est-ce que vous venez faire, les Blancs, ici? Vous venez nous filmer, vous venez nous voir dans notre ghetto. Mais là, tu peux plus reculer, tu peux plus avancer. Tu fais juste te dire, je vais-tu sortir d'ici? Il y a un racisme. Faut le voir pour le croire.
Ah oui, vraiment, là. Écoute, aux États-Unis, tous les jobs de merde, tu le vois, tu vas au restaurant, là, tu sais, c'est tous des Noirs là, qui passent le balai puis qui lavent la vaisselle.
Ben, regarde, en Floride, ils ont le droit d'avoir des pancartes. Ils n'ont pas le droit d'avoir des pancartes sur le bord du chemin, mais ils ont le droit d'avoir quelqu'un avec une pancarte sur le dos sur le bord du chemin. Et regarde qui est là. C'est pas du racisme. Je sais pas comment appeler ça.
Tu sais, puis ils sont en pleine pandémie, ça va mal, là, ils ont des émeutes, puis écoute, c'est pas la fin, là, ça va continuer, puis ils ont un président qui est pas... Tu sais, ils sont pas rien qu'il y a un président qui... C'est pas le meilleur, là, mettons.
Le meilleur pour ça, puis tu sais, t'as-tu vu sa déclaration sur Twitter, ce qu'il est allé dire, il dit quand la pagaille pogne, les armes sortent.
Mais oui.
Je veux bien croire qu'il veut... C'est pas en faisant ça qu'il va calmer le jeu, là.
Et en terminant, Maxi.
Maxi, Richard, à un moment donné, là, la blague est peut-être pas bonne. Okay? Puis,
ben, drôle, hein, drôle. Moi, je trouve trop très drôle.
Richard, on a tout engraissé. Mais y a-tu quelqu'un qui pense que pas engraissé dans le confinement?
Toi, t'as pas pris une crise de livre, toi. Je t'ai vu, là. T'as pas pris une livre.
J'en ai pris. Mes photos de chess sont prises de plus loin. Okay. Le focus, c'est pas sur le chess. Mais, tu sais, à un moment donné, il déguste des choses. C'est drôle, OK? Moi, je trouve ça drôle. Est-ce que ça m'attire, ce genre d'humour-là? Pas tellement. Mais bon, moi, c'est... Ben oui, il a raison, on a tout engraissé. C'est une conséquence de le confinement.
Peut-on en rire puis passer à autre chose? L'indignation, tout le monde est indigné. Je suis indigné, je suis choqué, puis tout ça. Hey, tu dis, calmez-vous, là. Respirez.
Mais ça, c'est une histoire de réseaux sociaux, puis je nommerai pas celle qui est très forte dans l'indignation, puis capoter, puis de crier après Martin Matt comme quoi c'était pourri. Mettons qu'elle était moyenne. Moi, honnêtement, je l'ai trouvé drôle, puis ça valait-tu la peine de l'enlever?
Non, mais en même temps, ces entreprises-là devraient se tenir debout puis dire, regarde, c'est pas vrai qu'on va censurer notre pub parce qu'il y a deux, trois énervés, là.
Ben non, mais c'est ça qui est l'affaire. Il y a deux, trois énervés qui servent de leur page Facebook qui ont 300-400 000 pour attaquer un humoriste que le, moi j'ai trouvé drôle. Puis le message est quoi? Que Maxi fait de la place aux produits québécois.
Ben oui.
Ils veulent en avoir plus. Le message était celui-là. Puis depuis quand qu'on engraisse en mangeant une tomate Savoura? OK, c'est ce qu'il dit, Martin. Il n'a pas dit j'ai mangé trop de chocolat. Il dit, là, je suis rendu à tomate Savoura, puis là, il est gros. Écoute, si on engraisse avec des tomates, moi, je ne sais plus quoi faire. Là, genre. Pour moi, c'est pas un scandale. C'était... ça aurait dû rester là. La réalité de cette Maxi n'aurait pas dû avoir peur de ça, puis d'écouter. C'est pas deux, trois énervés qui vont nous envoyer la ligue de je sais pas trop quoi, puis un autre organisme. Tu sais, à ce moment-là, puis Marie-Claude Lortie, je suis obligé de la nommer dans la presse, qui dit, ben là, c'est comme si il y avait des alcooliques qui feraient l'annonce de SAQ.
C'est elle qui a...
Ben, c'est elle qui a écrit ça dans la presse ce matin. C'est comme si des alcooliques faisaient la promotion de la SAQ. C'est tout mélangé, là.
C'est n'importe quoi.
De tout mélangé.
Merci beaucoup. Bon week-end. Puis tu fais tout le temps ton sirop d'érable?
Je suis dans le popcorn qui me sort par les oreilles. De la barbe à papa, des meringues, on s'amuse, il fait chaud, on est en train d'acheter toutes les aires climatisées qui sont disponibles dans la province pour réussir à faire fonctionner tout ça puis pas cuire à l'intérieur, mais on s'amuse beaucoup.
OK, mais t'es comme le gouvernement, t'as pas prévu ça d'avance, toi, là tu t'achètes les aires climatisées à la dernière minute.
Bien, on n'avait pas prévu qu'il était pour faire chaud au mois de mai. Là, on va être équipé pour le mois de juin et juillet quand les grosses canicules vont être là pendant plusieurs jours, il n'y aura plus de problème. Là, on a eu comme un 3 jours de nous rappeler à l'ordre que les petites aires climatisées n'étaient pas suffisantes. Et on l'a vécu solide. Là. On ne pouvait plus faire de produits pendant une journée. Là. Ça ne fonctionnait pas. Fait qu'on servirait de bord rapidement.
Mais tant mieux. Bon week-end avec ton popcorn. Salut, François.
Merci, Richard.
Salut. Jonathan.
Salut!
Hey, salut. Il y a plein de nouvelles qui n'ont rien à voir avec la COVID aujourd'hui. C'est le fun. Oui. Ça fait du bien.
Ben écoute, ça va, sincèrement, ça va beaucoup mieux. Tu sais, on se posait des questions, là, est-ce que vraiment on a la tête sortie de l'eau, là, la COVID, la situation dans les CHSLD, oh, ça meurt encore, ça meurt moins, mais, et là, débat de société autour d'une pub de Maxi, je me dis que ça, c'est l'indice, oui. C'est le témoin que ça va très bien, ça va très, très, très bien, ça va beaucoup mieux que ça ne l'était. Par contre, il faut juste faire attention quand on se positionne dans un débat comme celui-là, assurez-vous d'être cohérent, là. T'sais, si vous pétez une grosse coche contre Martin et Matt, mais que sur les médias sociaux circule une photo de votre chum déguisé en gros lutteur sumo pis qui trouve ça bien drôle d'avoir un déguisement de gros, ça se peut que ça nuise un peu à votre crédibilité. Là. Je dis ça comme ça, cas de figure. Juste un cas de figure comme ça. Faites attention. Mais sérieusement, là, je partage pas le point de vue de François Lambert. C'est pas vrai que c'est extraordinaire comme joke. C'est très drôle.
C'est drôle.
C'est très, très drôle. Martin Matt me fait toujours rire.
Ben oui.
J'ai regardé ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Et c'est qu'à un moment donné, il faut faire la différence entre shaming, là, je sais pas comment on le dit en français, là, mais shaming les personnes qui appelons ça différents ou qui ne s'inscrivent pas dans les normes, je le dis entre guillemets, là, parce que sont ces normes-là, là, dans les standards de beauté, tout ça. Moi, je veux bien là, qu'on soit pas en train de les humilier, par exemple. Sauf que c'est pas comme si Martin et Matt avaient mangé de la crème glacée de Maxi puis s'étaient empiffrés de chip en disant « Ma gang de pas bon, vous mais êtes gros parce que vous manquez de volonté, puis vous êtes des lâches, puis sortez donc. » Non, il a repris ce que tout le monde dit depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que, wow, en période de confinement, on bouge, il y en a peut-être qui bougent moins, on cherche du réconfort, puis on a tous pris un petit peu de bide. Tu sais, même Mario Dumont, oui. Mario, là, tu sais, j'adore Mario, là, c'est... Je l'admire, c'est un mentor, tu sais. Mais sa spécialité, c'est pas nécessairement l'humour, tu sais. Ben Mario a fait des jokes avec Benoît un matin en disant, moi, d'habitude, j'achète mes chemises en ligne parce qu'ils ont déjà toutes mes mesures, puis ils m'envoient ça, tout est déjà fait sur mesure. Ben il dit, là, il n'ose pas en commander, ben je sais que ça va me péter sur le dos, puis ça sera pas confortable. Tu sais, on en a tout parlé, là.
Ben oui.
C'est juste une pub, puis elle était drôle, cibole.
Ah, ça a plus d'allure. Mais je reviens là-dessus, là. Le problème, c'est pas que des gens se sont indignés. Le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui mettent le genou à terre à la première plainte. Ça,
c'est ça le problème.
Ça a été vite, hein? Ça a duré juste quelques heures, même pas moyen de peser le pour et le contre. Puis, tu sais, sincèrement, j'avais pas tant de temps à perdre là-dessus hier soir. Là. Fait que, tu sais, je me suis pas... j'ai pas passé des heures à lire les commentaires. Mais de ce que je comprends, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires qui disent, ben voyons, pourquoi vous l'avez enlevé? Là.
Mais oui.
Tu sais, ils ont peut-être été un peu frileux. Mais en même temps, juste te dire, là, moi j'aime ça qu'on est capable de débattre, puis je pense que c'est ce que les gens aiment aussi écouter Cube Radio, là, c'est qu'on est des animateurs différents qui ont des opinions différentes, puis on est capable de les confronter respectueusement. Fait qu'à 11h15, notre collègue Geneviève Peterson va être avec moi dans l'émission, parce que bon, elle a pris position, puis on a vu les positions différentes avec celle de Sophie, de ta conjointe dans le journal. C'est le fun de pouvoir comparer les deux. Ben, on va en débattre, Geneviève et moi, tantôt, respectueusement. Mais moi, j'ai beaucoup de misère à me scandaliser de ça. Je me scandalise bien plus de voir un président américain attiser le feu.
Ben, c'était clair, hein?
Alors que le bordel est pogné au Minnesota, qui dit on va envoyer l'armée. C'est quel président débile. Il est complètement débile. Il est hors de contrôle. Il veut censurer Twitter. Cet homme-là est un danger public. Vraiment, là, je fais même plus attention à ce que je dis. C'est un danger public.
Moi, je peux pas croire qu'il y a des gens encore qui le défendent. Je peux pas croire.
C'est incroyable. Je veux juste, je finis sur juste un petit truc. Il y a des fois, justement, des chroniqueurs, des gens qui donnent leur opinion qu'on peut dénoncer, puis qu'on sait que 95% du temps, on n'est pas d'accord avec eux, mais j'aime ça le souligner quand je suis d'accord avec eux, tu sais, pour démontrer que je suis capable d'être balancé, là. Je t'ai souvent parlé d'Émilie Nicolas, la chroniqueuse du Devoir, qui, bon, elle, ben, par exemple, là, la loi 21, c'était comme un génocide, génocides et tout ça. Mais elle a fait, elle a publié un texte, c'est hier ou avant-hier, que j'ai ressorti en écoutant ta conversation avec François Lambert, qui s'intitulait « Ils sont fous, ces Américains ». Et dans ce texte-là, Émilie Nicolas, avec une certaine justesse, ça mériterait une analyse approfondie, mais dénote qu'il y a des trucs qui se passent aux États-Unis dont on se scandalise, pour lesquels on se scandalise, avec raison, on met l'emphase, mais que bizarrement, quand ça se passe chez nous, on n'en parle pas tant que ça. T'sais, c'est comme si de juger ce qui se passait aux États-Unis, ça nous faisait du bien. Or, elle rappelle que au mois d'avril, il y a un citoyen noir de Brampton, en Ontario, qui a appelé la police lui-même parce qu'il ne se sentait pas bien au niveau de la santé mentale, ça allait pas bien. Ça a fini qu'ils l'ont tué. Le gars, il s'est fait tirer. Lui-même avait appelé à l'aide. Il est mort. T'sais, on a parlé beaucoup des rassemblements dans les parcs. Tout ça. Bizarrement, les images du parc Trinity Bellwoods à Toronto en fin de semaine, où Doug Ford s'est même senti le besoin de sortir en disant « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » C'était l'enfer, ces images-là. Au Québec, on n'a pas tant parlé. Par contre, quand c'est sur des plages aux États-Unis, ah ben là, on met bien gros l'enfer. Fait que, tu sais, des fois, c'est facile de regarder le voisin puis de le juger. En oubliant un petit peu de se regarder le nombril puis de se regarder dans le miroir.
C'est vrai. Aussi, là, c'est vrai, c'est drôle, par exemple, on peut dire ils sont fous, ces Américains, mais si tu dis ils n'ont pas été corrects, les Chinois, c'est du racisme. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu as le droit de critiquer les Américains, mais tu peux rien dire.
Aussi. Mais tu sais, regardons dans notre cours. T'sais, la question raciale, on s'entend qu'il n'y a pas de commune mesure avec ce qui peut exister aux États-Unis, les tensions, le racisme, les différentes classes, là. Mais je pense pas qu'on est parfait non plus.
Attends une minute, le gars qui avait des problèmes mentaux qui s'est fait tirer, là, je m'excuse, mais il y a plein de gens qui ont eu des problèmes mentaux qui se sont fait tirer par la police puis qui étaient blancs. En fait, c'est un problème avec les policiers et la maladie mentale plutôt que les policiers blancs contre les noirs.
Je vais juste dire que des fois, on en a des cas, des situations où on va passer plus vite par-dessus si ça se passe à Winnipeg, à Edmonton ou à Toronto que si ça se passe au New Jersey, à Minnesota ou Atlanta ou Chicago.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a une réflexion intéressante à faire. Je dis pas que des fois, c'est pas pire ce qui se passe aux côtés de la frontière, mais on a tendance à être plus sévère avec le voisin qu'avec ce qu'on fait dans notre propre cour.
Tout à fait. On va t'écouter tantôt sur la pub de Maxi. Un gros débat, t'accaches-tu? Gros débat. Ben oui! Maxi.
Il faut pas lutter sous moi en fin de semaine, c'est pas le temps.
Merci, on t'écoute avec Maude Boutin. Merci beaucoup à Maude, merci à Hugo Veilleux, à la recherche, Achille Moinet au pain au chocolat et à la réalisation.
Petit pain au chocolat.
On se reparle lundi, 8h, passez un excellent week-end. Bye.